pas se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui. Christine Bravo, ouais. Fabrice Eboué,
ouais.
Titoff,
ouais.
Florian Gazan,
oh.
Yann Wax,
oh.
Et Pierre Bénichou,
ouais.
Oh là là, quel accueil, Pierre!
Oui, merci, cher public!
Vous avez vos fans aujourd'hui?
Non, 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 des gens normaux, en tout cas.
Mais qu'est-ce qui lui arrive?
Il s'en mêle.
Il se lève, il veut changer de fauteuil, Pierre, parce que, évidemment, non, ça commence mal, cette émission.
Mais attends, attends, il y a une manette juste pour monter. Il peut monter 10 cm juste en appuyant sur une manette, on va lui chercher un autre
C'est
fauteuil.
Trop, il sait pas faire ça. C'est trop. D'ailleurs, Pierre, je note que je pensais que vous pensiez lire vos textos. Car je vous signale, je vous ai envoyé un texto il y a 3 jours, vous ne m'avez toujours pas répondu.
Oui, justement, je m'interroge.
Ah
c'était,
oui.
Pour m'inviter à, c'était pour m'inviter à déjeuner dans 10 jours. Oui, je m'interroge. Je vais voir. J'ai consulté des amis.
Mais alors, vous savez où pas les lire, vos textos?
Mais
bien sûr, je sais lire, je sais même en envoyer.
Ah ouais?
Seulement, je dois avoir des trop gros doigts. Je fais des pâtés tout le temps, quoi.
Ah.
Je suis obligé de revenir.
Alors, qu'est-ce
là.
Que je vous ai écrit pour voir si vous l'avez lu, mon texto?
Bien appris ma leçon.
Et vous ne répondez pas, alors?
Mais une fois que je le reçois, j'ai pas à répondre.
On comprend pas.
Tu me fixes une date, moi, je suis évidemment d'accord.
Ah bah, il faut le dire quand vous êtes d'accord.
Oui. Ouais, en fait, toi, tu envoies un texto, lui, il te répond par télépathie.
Enfin, en plus, vous avez mis des petits smileys.
Non, ça c'est non,
c'est, mais c'est quoi ce truc là, de bons hommes là, c'est quoi le smiley, ça veut dire?
Je l'ai fait exprès. Je me suis dit, tiens, je vais l'emmerder, on va voir s'il sait lire ces textos.
Non, le smiley, je sais pas ce que c'est.
Je lui ai envoyé un texto avec, vous savez, un petit cochon, un petit cheval.
Un petit singe.
Et pourquoi?
Et parce que j'étais sûr qu'il comprendrait pas ce que ça veut dire.
Non, non,
lui, il est dessiné qu'à crayon.
J'entends ding à 7h du matin, je vais. Je regarde, je vois des petits cochons, des petits, je vois, j'ai envie de rigoler à ce temps-là, tu peux pas savoir.
Alors, ça bouge.
Bon, alors, le déjeuner est remplacé par un coup de sifflet, bref. Il n'y aura pas de déjeuner.
Envoyer un cochon à un juif dès le matin, ça passe à l'eau.
On reprend tout de suite, d'accord.
Par contre, tu peux lui envoyer une cochonne le soir.
Mesdames et messieurs, le retour de Fabrice Eboué. Non, écoutez, franchement, là, faites attention à ce que vous dites. Faites que, quand même, les choses sont tendues en France en ce moment. On peut pas. Cette émission est une des rares émissions.
C'est pas comme ma bite.
Non, Christine, faites quelque chose. Finalement, vous êtes la plus sensée de la bande. C'est dire. Non, franchement, faites quelque chose.
Oh là là. Il y a mon kiff absolu qui est là.
Ah oui?
Bah, regarde-moi ça, et pof, et les cannes, et je te croise d'un côté, je te croise de l'autre, et les yeux verts étirés vers les tempes, et les dents bombées en avant un peu, il n'y a pas mieux, quoi.
Le cochon, la cochonne, la journée complète.
C'est quoi comme prénom, vous?
Allez, gêné.
Madame, ne soyez pas gênée, vous pouvez répondre, évidemment.
Pardon? Vous voyez bien que j'ai le casque, quoi?
Aurélie. Mais même sans le casque.
Elle va se faire engueuler en plus.
Aurélie
qu'elle vous dit qu'elle s'appelle.
Aurélie, qu'elle est mignonne, elle est jolie. J'aimerais, écoutez, il n'y a pas beaucoup de gens à qui je dis cela, mais j'aimerais vraiment que vous soyez à ma place. Et quand elle va se lever, arrête. Je sais même pas ce qui m'attend.
Rassurons les dames qui sont au premier rang. Pierre, comme ça, parle beaucoup. Mais
il fait rien.
Voilà.
Alors là, si y a un mec qui fait rien, viens à la maison. Si y a un mec qui fait rien, c'est bien pépère.
Il appelle Titoff et il mate.
Amel est au téléphone. Bonjour, Amel.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Ça tombe bien parce que vous m'avez envoyé un mail pour me dire que vous étiez heureuse de retrouver le célèbre duo Bénichou et Boué, les foutites et chocolat des temps modernes.
Mais oui, bah, j'adore votre émission et mais bien sûr mon préféré c'est Fabrice Eboué et Pierre Bénichou.
C'est votre préféré, ah, Fabrice Eboué et Pierre Bénichou.
C'est vraiment un duo.
Alors, ma doute.
Et quand même, vous espérez que, comme Fabrice qui triomphe sur scène en tournée à travers la France, Pierre Bénichou fasse la même chose un jour, un one-man show, dites-vous. Hein.
Oui, bah ouais, ce serait trop marrant.
Ah, non, mais c'est vrai qu'il a plusieurs sketchs. Hein. Vous avez noté les sketchs qu'il pourrait faire sur
mais
scène.
Mais oui.
Le sketch du Burger King, celui du jardin d'acclimatation.
Ouais.
Celui, j'avais oublié celui-là du « On m'a cassé mon déflecteur ». Il est là, il pend mon déflecteur. Il pend, on dirait la bite à Miller. Bon, très bien, oui, ça.
Ouais, très bien.
Il y a le marché bio avec les
ah oui, le marché bio,
les bobos bio,
la Modus.
En bonus, les Beatles et Barbara.
C'est comme le seul spectacle où il y aura un entracte à chaque sketch par contre.
Vous pourriez ouvrir avec la chasse à l'ours.
Non, écoutez, vous êtes gentil, mais je n'ai rien d'un showman. Je ne suis là que par grâce à vous, que c'est parce que quand vous êtes là, vous m'excitez, vous êtes tellement con que je vais essayer d'être encore plus con, tu vois. Alors je fais des trucs, et puis je fais jamais des sketchs, je raconte des choses vraies qui me sont arrivées dans la vie.
Non, mais il est adorable, on l'adore.
Ah ben, bien sûr.
On l'adore, et vous venez à Lyon, vous revenez à Lyon quand vous voulez, on vous accueille les bras ouverts.
Où ça?
À Lyon.
Lyon, c'est une petite ville.
J'adore Lyon, ouais. J'adore Lyon.
C'est en Auvergne.
J'adore Lyon.
Non, c'est en Poitou, Limousin, Charente, Côte d'Azur.
Ça vient d'être couplé avec Brest, non?
C'est ça, ouais.
Le nouveau découpage de la France.
Ah, un nouveau sketch.
J'ai Benjamin maintenant au téléphone. Au revoir, Amel. Et bonjour, merci Benjamin.
Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe.
Vous confirmez ce que nous a dit Pierre la semaine dernière. D'ailleurs, c'était une petite leçon de français que Pierre Bénichou avait voulu donner à Christine Bravo. On doit dire un entrecôte et non pas une entrecôte. Vous avez vérifié, Benjamin.
Ça m'a beaucoup perturbé. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il n'invente pas encore mon Pierrot pour se faire remarquer. Et puis je me suis dit, avant de lui lancer la première bière, il faut vérifier quand même.
Alors, vous avez vérifié.
Je vais sur larousse.fr où je trouve entrecôte non féminin.
Aïe, donc il avait tort.
Alors je me suis dit, c'est un peu bizarre qu'il nous ait raconté ça. Je continue mes recherches et je tombe un peu plus loin sur jusqu'en 1920, on disait un entrecôte masculin.
On a tout s'explique.
Alors je me dis qu'il n'est pas si dur.
Ah, c'est bien.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé Pierre Bénichou sur Google pour connaître sa date de naissance.
Entre
parenthèses, c'est 1938. Et là, quelle ne fut pas ma surprise.
C'est
mais
pas
juste,
vrai.
Juste quand j'étais en train d'emballer, tu vous étais en hey, c'est un menteur.
Et quand vous avez tapé Pierre Bénichou, sur quoi vous êtes tombé?
Et ben, je suis tombé sur les recherches associées, vous savez, les recherches les plus fréquemment proposées. Et je pensais tomber sur Pierre Bénichou, journaliste, ou sur Pierre Bénichou, turf. Mais non, la recherche la plus fréquemment requise, c'est Pierre Bénichou, Burger King.
Ah, c'est trop bien.
Et oui, parce que les gens doivent rechercher la fameuse photo sur ordinateur. On peut trouver la photo de Pierre Bénichou faisant la queue chez Burger King. Alors, il doit y avoir des tas de gens qui recherchent ça sur Internet.
Non, mais le truc d'entrecôte féminin masculin, c'est vrai que on avait un prof qui disait, il faut dire, on devrait dire en entrecôte, mais ce sont des choses qui, ce sont des trucs qui font passer pour un bas bleu, pour un machin. Donc, c'est pas la peine de dire en entrecôte. Vous dites pas ni un ni une. Je voudrais de l'entrecôte pour ne pas faire une faute de français d'un côté.
Et si t'en veux deux?
Des entrecôtes.
Ah bah oui,
con. On vous remercie en tout cas, Benjamin, pour ces précisions. Bonjour pour notre première venue dans vos studios ce mercredi, me dit Anthony. J'ai eu la surprise de découvrir que Titoff faisait partie de la programmation. Ça y est, mon jour de chance est arrivé. Je vais enfin pouvoir voir mon chouchou de l'émission en vrai, l'inégalable, l'hilarant, mais surtout ponctuel, François Renucci.
Je me doutais qu'il allait avoir.
Et ben, pas de mal, il était à l'heure aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un instant, c'est le qui a le mieux bossé.
Europe 1.
On va se gêner. Qui a le mieux bossé?
On commence par vous, Yann Moix, puisque c'est Christophe de Chavannes qui a gagné hier. Il va remonter sur un ring, non pas de Chavannes, hein, mais celui dont je vous demande le nom, il va remonter sur un ring en lourd léger après plus de 2 ans d'absence contre un Hongrois de 24 ans. Ce sera le 26 juin à Asnières. Il s'agit de...
Tyson.
Non, Jean-Marc Mormec, enfin.
Je sais pas qui c'est Mormec.
Non, je suis très nul en boxe.
Tyson, faut comment Tyson pourrait revenir sur un ring
surtout
aujourd'hui?
Surtout tu le vois plus trop, tu sais où c'est?
Asnières.
Il est sur Asnières, il demande sur Bois Colombe. Disons, est-ce qu'il paraît qu'il était bon comme boxeur? Non, mais ça va
Pierre,
pas.
Pierre, c'est à vous, vous êtes évidemment capable de me donner la nationalité d'Andy Murray. Qu'affronte Gaël, mon fils, cet après-midi?
Il est écossais.
Il est écossais, bonne réponse de Pierre Bénichou.
Et je n'ai pas dit comme le petit pois.
Pouvez-vous me donner le nom de code de l'opération du débarquement en Normandie qu'on va célébrer vendredi prochain, Florian Gazan?
C'était Overlord.
Overlord, bonne réponse de Florian Gazan. Qui réalise le film Sous les jupes des filles qui réunit un casting de comédiennes incroyables?
Audrey Dana.
Audrey Dana, bonne réponse.
Là, c'est la honte de se planter.
Demain, qui le président François Hollande recevra-t-il à l'Élysée?
Poutine.
Poutine, ouais. Bonne réponse.
Tu sais, on dirait comme quand ils font le champion en question pour un champion. Des fois, ils font pour les classes de 8e. Tu sais, comment est-ce qu'on écrit POUM? Alors, je fais P-O-U-M. Ouais.
Qui, madame Carole Delga, va-t-elle remplacer au gouvernement? Fabrice Eboué, c'est la question suivante.
Pourquoi,
ah, c'est encore vous, alors. C'est Christine Bravo, alors, oui. Christine, pardon.
C'est la malade, là.
Oh, c'est bien vendu.
C'est Golen.
Non.
La Rouennaise.
Valérie Fourneyron. Voilà, vous êtes éliminée, Christine. Bravo, je suis désolé. Il me reste en course Pierre Vénichoux, Florian Gazan, Titoff et Fabrice Eboué. Ça fait du bon quand même encore. Alors à vous, cher Pierre Vénichoux.
Yes.
Pouvez-vous me dire, cher Pierre, le nom de l'otage français retenu par Acme dans le Sahel qui est réapparu sur une vidéo hier?
Oui, ça finit par Revitch.
Ouais, c'est ça.
Mais ça commence par quoi?
T'es dans le jury, toi, maintenant?
C'est Serge, le prénom. Serge.
Eh, bravo, ouais. Fabrice.
Ah, non, je sais ce que c'est. Lazarevitch.
Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Serge Lazarevitch. À vous, Florian Gazan. Pouvez-vous me dire, cher Florian, avec quelle région, la région Rhône-Alpes, va-t-elle devoir fusionner?
Je m'y attendais à ce genre de question.
Rhône-Alpes avec
la
Corse. Non, pas la Corse.
Attention, encore 3 secondes, pas. Florian.
Avec la Réunion.
Le massif central, là, l'Est, le
Non,
le
c'est l'Auvergne.
C'était l'Auvergne.
C'est pas le massif central.
L'Auvergne. En plus, on l'a dit tout à l'heure, Lyon en Auvergne. Oui. C'est pas par hasard que j'ai dit Lyon en Auvergne.
Il te donne la réponse.
Rhône-Alpes et Auvergne vont devoir fusionner. On en reparlera peut-être avec Paul Vermus tout à l'heure, car on va lui demander d'enquêter là-dessus, parce que c'est vrai qu'il faudra un seul nom. Non seulement les régions vont fusionner, mais après, il faudra choisir un nom qui regroupera les deux régions. Ça, on va s'amuser encore avec ça.
La seule région qui était facile, c'était Haute et Basse Normandie, et finalement, ça fusionne pas. Ils sont cons, quoi.
Parce que là, le nom ça fusionne.
Ça fusionne. Non, c'est Nord-Pas-de-Calais et Picardie, je crois.
C'est la Bretagne.
Haute et Basse Normandie, ça va devenir Normandie. Depuis le temps qu'on en parle, ça y est, on est fusionnés, Fabrice. Ouais. Vous et moi, nous fusionnons.
Vous retrouverez à Trouville.
Je suis content qu'on soit.
Cher Titoff, êtes-vous capable de me donner les prénoms des frères et sœurs du futur roi d'Espagne, Felipe VI?
Maria?
Non.
Pablo?
José?
Bah, pas frère et sœur d'ailleurs. Deux sœurs, hein, c'est deux sœurs.
Deux sœurs?
Oui, deux sœurs.
Il y en a une qui s'appelle comme moi. Allez.
Cristina.
Cristiano et Ronaldo.
Cristina et Marina.
Non. Cristina et Elena, vous êtes éliminées. Il me reste donc Fabrice Eboué et Pierre Bénichoux pour l'instant. Ouais. Fabrice, le rapporteur de la loi pénale dont on discute actuellement à l'Assemblée nationale, la fameuse loi Taubira, est un député socialiste de Loire-Atlantique dont nous avons beaucoup parlé cette semaine, puisqu'il est aussi le fils de... Monsieur Dominique Rimbourg, c'est le fils de... Je vous aide.
Il ne sait même pas qui c'est André Rimbourg.
Fabrice, mais...
André Rimbourg, non?
C'est le fils de Bourville.
Pour la peine, tu limites.
Vous êtes éliminé. Oh bah non. Ah bah... Le fils de Bourville,
Normand,
député socialiste. On en a parlé ici même dans cette émission, grâce au portrait de Libération. Mais vous lisez pas Libé non plus. Alors c'était dans Libé.
Non, t'écoutes pas l'émission, tu lis pas Libé.
Eh ouais, vous êtes vraiment pas de gauche.
J'écoute Radio Courtoisie, je lis Le Figaro. Laisse-moi tranquille.
Le grand gars. Ouais, Pierre Bénichoux. Oui. Pierre, je vous donne vos cadeaux après la pub. Ah, vous êtes content, Pierre, parce qu'il y a des beaux cadeaux en plus.
Ah oui.
Puisque c'est vous qui avez remporté le qui a le mieux bossé, je vous offre ce jeu de société, édition collector, le jour le plus long. C'est pas un jeu de société du tout, en fait.
Non.
C'est un DVD, un Blu-ray, il y a 3 heures de bonus. En fait, c'est le film, le jour le plus long, qui ressort en version, le film d'Ariel Zanuck, qui ressort en version collector.
Avec Delon qui joue Chaban Delmas.
Exactement.
C'est
dans Paris en colère.
Paris-Voltil.
Delon qui joue Chaban Delmas.
Quand Paris se met encore.
Tais-toi, putain.
C'est aujourd'hui, hein, Laurent, le jour le plus long. Hein.
Dans le jour le plus long, vous avez John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda,
Bourville.
Jane Connery, Bourville, exactement. 48 stars internationales qui donnent vie à cette super production hollywoodienne. Ouais. Le film est en DVD, en Blu-ray. 3 heures de bonus. Il y a le livre aussi, le jour le
plus long. Encore plus long.
5 passeports des personnages principaux, 6 photos inédites.
D'accord, il faudrait que ma télé marche.
Ah oui.
Or, mon décodeur.
Non, ça va, on s'en fout.
Ouf.
Mais pourquoi?
Ah, ben ça y est, ça va repartir une plombe, mon décodeur, mes prises, mes machins.
J'ai aussi une invitation au prix de Diane le dimanche 15 juin à midi à l'hippodrome de Chantilly. Bon, alors elle est à mon nom, mais vous pouvez y aller à ma place, Pierre.
Oui, bien sûr, on nous confond toujours.
L'encouragez pas, il va vouloir écrire Turf 2 après.
C'est France Gallo qui vous invite au déjeuner.
France Gallo.
Ça existe, France Gallo.
Oui, je sais.
Qui vous invite
C'est toi, c'est le coproducteur de Turf. France Gallo.
Au
vrai.
Déjeuner à la réunion du prix de Diane.
À la réunion. C'est loin.
Longines, le dimanche.
Il est bon.
Dimanche 15 juin.
Mais t'es obligé de dire un truc à chaque fois. Ouais.
C'est une invitation strictement personnelle, valable pour deux personnes, Pierre. Alors, vous voyez, non, franchement,
c'est bien. Ouais.
Vous irez à ma place, ils seront contents. J'ai un DVD aussi. Ouais. Paris au Moyen Âge, le cœur de Paris.
Ça me plaît.
Non. Oh, mais c'est mon cadeau.
Vraiment un pourri.
Moi, l'autre jour, il y avait un mec qui achetait chez Boucheron des diamants à sa femme et tout. J'ai dit, ça me plaît. Il m'a dit, oui, c'est pas pour toi. Ça veut dire.
Les reconstitutions historiques en images de synthèse. Reconstitution historique de Paris au Moyen Âge.
Ah oui, ça va être bien.
S'il te plaît.
T'as qu'à venir le voir à la maison.
Toi qui as connu.
En bonus, les 20 églises, je ne savais pas qu'il y avait 20 églises de l'île de la Cité. Un joli DVD en couleur de Paris
c'est en couleur,
au Moyen Âge.
Mais il met exprès dans sa veste mon DVD.
Prends le Donald et fais pas chier.
Mais tu sais, c'est petit, voilà. Tu vois. Ça me rappelle mon oncle, le frère de ma mère qui a 4 ans de plus que moi.
Le frère,
puisque
ma
grand-mère et ma mère sont mortes en même temps.
C'est vraiment le jour le plus long.
Voilà, lapsus révélateur.
Elle
va être contente, votre maman, qui vous écoute sûrement.
C'est pas seulement un sketch, c'est une tranche de vie.
On a couché en même temps, enfin quasiment en même temps, à 4 ans d'écart. Pour te dire, comme il était vache comme toi, tu vois, j'avais toujours des zéros de conduite. Et donc,
sans rire.
Et ma grand-mère disait à son enfant, tu emmerdes pas Christine avec ça, tu emmerdes pas Christine. Et là, il était là. Tu y dis pas. Et là, on était à table, il me faisait ça. Il me faisait zéro avec les doigts.
Tu sais
vous inquiétez
pourquoi
pas.
T'es sûr qu'il voulait pas te niquer, mais t'es pas le doigt dedans. Hein,
D'où l'accouchement à 4 mois d'écart.
Dis-moi, est-ce que
racontez un épisode personnel et vous allez voir.
Je vais vous faire
la même tronche que ce que vous venez de faire.
Mais non, parce que c'est un peu émouvant. Donc on n'a pas envie de rire bêtement.
Mais non, parce qu'on est ému.
On n'a pas envie de rire comme si tu avais bien, par exemple, un soutien-gorge blanc sous un truc noir transparent. Ça peut faire marrer, mais le reste, non.
C'est vrai que là, dites donc, on les voit, vos nibards.
Mais je croyais que tu mettais pas de soutien-gorge en plus.
C'est toi qui me dis que je pouvais retirer mon pull.
On a même l'impression que c'est eux qui nous regardent.
Allez, dans un instant, le premier challenge auditeur sur Europe 1.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Auditeur contre chroniqueur.
Bonjour Tatiana, bonjour Adrien.
Bonjour.
Tatiana est à Londres, Adrien à Gravelines dans le Nord. Qu'est-ce que vous faites en Angleterre, Tatiana?
Alors, je cherche un travail dans les relations publiques.
Ah, très bien. Et pourquoi être partie en Angleterre pour le trouver?
Parce que j'avais envie de vivre à l'étranger. Voilà.
Ah ben voilà, tout simplement. Peut-être que vous avez un petit ami là-bas aussi?
Oui, vous
avez
bien
deviné. Ben ouais. Mais un petit ami anglais ou une petite amie londonienne?
Écossais, il est écossais.
Écossais,
il s'appellerait pas Tony Muret.
Non, Andy.
Bien essayé, Pierre.
Ah, c'est con, Pierre.
Tony Muret, t'en as mis à moi, ça, Tony mec. Muret.
Tony Muret.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Un mec qui s'appelle Tony Muret, qui est un copain à moi.
Comment il s'appelle, votre petite amie?
Jenny,
parfait. Votre dîner d'hier soir, Tatiana?
Un poulet rôti avec des patates douces et une salade verte.
Ah, ça a dû les surprendre, les Anglais, quand même, alors.
Ça progresse en Angleterre.
Bah, c'est moi qui cuisine.
Ah, bah oui, évidemment.
Mais la patate douce, c'est dur à faire ou pas? Parce que chaque fois que j'ai goûté ça, j'ai trouvé ça immonde.
Ah non, c'est très bon, c'est super bon, la patate douce.
Ah oui, la patate douce. Non, ça se fait avec quoi en général ?
Patate, tu la caresses pour voir si elle est douce. Tatiana, je vous présente Adrien, qui est à Gravelines. Alors Adrien, qu'est-ce qu'il fait lui ?
Bonjour. Alors,
bonjour.
Moi, je suis étudiant en logistique.
Très bien. Oh, il est timide, Adrien, je sens.
Ouais, un petit peu.
Vous êtes impressionné par Fabrice Eboué, Christine Bravo ou Pierre Bénichoux ?
Pierre Bénichoux.
Ah, c'est lui qui vous fait peur, évidemment.
Ouais, ça fait rien, tout ce petit gars.
Votre dîner d'hier, Adrien ?
Alors, j'ai mangé des lasagnes.
Des lasagnes, voilà. Faites maison ? Non.
Non, même pas.
Non, comme ça. Oh, bah oui, c'est...
On sent que la soirée a été triste, quoi. Ça a été une bière, une branlette à Oli, après.
Mais avant les lasagnes, quand même. Non.
T'es vache, Fabrice.
Tant que ça chauffe au micro-ondes.
Deux branlettes.
Adrien, ne les écoutez pas. Rêvez plutôt à l'hôtel 4 étoiles Dolce Frégate Provence qui vous attend. Ça tombe bien. Bandol, entre Marseille et Toulon. Cet établissement est un lieu unique et bienfaisant pour le corps et l'esprit. Tout respire la Provence, là-bas. C'est pas compliqué, la gastronomie, les vignobles, le parfum, évidemment, de la région, la lavande, golfe 18 et 9 trous, la mer Méditerranée que surplombe l'hôtel. Un site exceptionnel pour un séjour de rêve. Plus d'informations sur www.dolcefregate.fr. Voici la question qui va vous départager, Tatiana et Adrien. Prêt ?
Oui.
Le parquet de Thionville a annoncé ce drame tout en privilégiant la thèse du suicide. Le cadavre d'une femme de 41 ans qui a été découvert en quelles circonstances ?
Dans son congélateur.
Dans un congélateur.
Dans son congélateur, c'est Adrien qui a été plus rapide que Tatiana. Bravo.
J'adore.
Les grands congélateurs.
C'est vraiment la crise, quoi.
Elle s'est congelée.
Ah ouais, les gens, ils
comment c'est possible ?
C'est pas un congélateur à tiroir. C'est un congélateur avec un qui les con.
C'est pas un des enfants.
Elle s'est pas coupée en morceaux avant de se congeler. Ouais,
c'est un suicide.
Un des enfants courgeaux qui a réussi à tenir le coup en mangeant ce qu'il y avait dedans pendant des années.
Non, mais c'est terrible.
Mais non, il n'y a pas de poignée à l'intérieur.
C'est un drame terrible. On va pas se moquer, mais quand même.
Bah si.
Comment on peut imaginer qu'elle se soit suicidée?
Non, c'est pas suicidée. Elle avait très chaud. Elle se dit tiens, au lieu de rester pendant 2 heures dans un courant d'air, je vais rester 2 minutes au congélateur. Comme on fait pour le champagne.
Non, mais c'est quelqu'un qui se suicide, mais qui veut garder une chance de vivre. On me décongèlera peut-être dans quelques années.
Hibernatus, vous pensez.
Elle est arrivée, elle a dit je vais me suicider au gaz. Elle n'avait pas le gaz, c'était l'électricité. Après, elle était à la fenêtre, alors Hardé, elle était au premier étage. Elle a vu un gros congélateur, elle a dit boum, allez, je sors.
Non, mais moi, je ne crois pas au suicide dans ces cas-là.
Bien sûr que si, c'est énorme un congélateur.
Mais c'est pas la taille.
On peut le fermer de l'intérieur.
On ne peut pas fermer un congélateur.
C'est un coup de Captain Igloo, ça.
Ça peut être les gros congélos avec le truc qui se ferme par an.
Oui, mais
comment tu fais
quand tu commences à grelotter un peu, avoir un peu froid, tu vois, tu mets hop,
tu peux pas. Tu peux pas rouvrir.
Mais comment elle peut le fermer ?
Tu peux pas rouvrir quand t'es dedans. Si tu pouvais l'ouvrir, tout sortirait.
Mais
tout le monde
tu crois qu'un poulet congelé, il va ouvrir la porte.
Non, mais tu crois qu'un poulet.
Christine, si elle veut suicider, une fois qu'elle est dedans, elle va pas dire non, je vais ouvrir.
Tu crois qu'un poulet congelé peut ouvrir la porte?
Mais la question, c'est pas d'ouvrir la porte. La question, c'est. Pierre refait les cris des animaux. Il y a longtemps que ça nous était pas.
Là, il a fait le poulet congelé.
Ça, c'est le poulet congelé depuis 1920.
Pour faire le chat.
Non, mais congelé maintenant.
La question, c'est pas comment ouvrir la porte. Elle s'en fout d'ouvrir la porte puisqu'elle veut suicider. C'est comment on la ferme? Ça se ferme tout seul, la porte du congélo.
Un congélo, ça. Ben oui, parce que sinon, tu risquerais de perdre la marchandise. Tu ouvres un congélo et hop, ça se referme. Il y a une sécurité.
Jamais de la vie, dit Florian.
Jamais de la vie, c'est pas comme ça.
Il y a une sécurité.
C'est pas comme un coffre de bagnole.
C'est une mort douce. Tu te refroidis doucement, tu te laisses aller. Non, c'est cool.
Et puis tu pars en bouffant un magnum quand même, c'est sympa.
Un Mr Freeze.
C'est une nouvelle forme de suicide quand même, parce que ça n'existait pas avant, se suicider dans un congélo, je dois dire.
Ah ouais, en fait elle était créative, quoi.
Ben oui, parce que franchement, vous avez raison.
Savoir si c'est pas un meurtre.
Ah, c'est ma question.
Et qu'après ça, on l'a mise dans le congélo.
Ah, c'est ma question.
En disant c'est là qui s'est suicidé.
L'équivalent de Landru, mais avec le froid.
Oui, bien sûr.
Oui, c'est ça, c'est l'anti-Landru, c'est par le gel.
Par le gel,
en fait. Tatiana, vous avez été moins rapide qu'Adrien sur cette question.
Oui, c'est ça. Est-ce que je pourrais avoir le livre des 15 ans de repas?
Le livre des
15
ans. Alors, les 15 ans de repas, non.
Pardon, les 15 ans d'émission.
15 ans de repas.
On va vous l'envoyer, Tatiana.
Ouais.
Merci.
Ben oui, les 15 ans. Vous voulez dire les 15 ans dont on va se gêner, évidemment.
Oui, oui, bah,
on va vous l'envoyer dédicacé par toute l'équipe et on vous embrasse très fort. Adrien, avec qui vous partez, vous, à l'hôtel Dolce Frégat de Provence à Bandol?
Bah, la lasagne, hein.
Non, je ne sais pas encore, je verrai.
Bon, vous soyez pas là quand même.
On vous souhaite un bon séjour. Vous moquez pas d'Adrien parce qu'il a été plus malin que tout le monde. Il a bien été rapide sur la question. Bravo à vous, Adrien.
Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Bonjour Paul. Alors là, des Bonjour. Enquêtes difficiles pour vous aujourd'hui. On est un peu en retard pour vous donner vos enquêtes, mais on ne va pas mentir à nos auditeurs. Je vous les ai données il y a à peu près maintenant déjà 30 minutes, une heure hors antenne. Donc vous avez pu déjà commencer même à enquêter, j'imagine, Paulo.
Oui, enfin bon, une toute petite heure. Hein, ah. Toute petite heure.
Donc vous n'allez
pas exagérer non plus.
Vous avez peut-être enquêtes... même déjà une partie des réponses, non?
Non, je n'ai pas une partie des réponses. Moi, je travaille avec précision. Je ne peux pas vous raconter des choses qui ne sont pas.
Hein. Alors, parmi les enquêtes que je vais vous confier aujourd'hui, d'abord, effectivement, les noms des nouvelles régions, parce qu'on sait que François Hollande a décidé qu'il y aurait désormais 14 régions en France. Alors, il y a quelques régions qui râlent. L'Auvergne n'a pas vraiment envie d'être avec Rhône-Alpes. Les Picards n'ont pas vraiment envie d'être avec la Champagne-Ardenne. Bon, la Normandie, ça semble assez facile. Mais en revanche, c'est vrai que les Pays de la Loire avaient plutôt, pour certains, envie d'être en Bretagne, mais les Bretons n'ont pas voulu. À Poitiers, ils voulaient être du côté de l'Aquitaine plutôt que d'être avec Orléans et Limoges, avec donc les centres Limousin, Poitou, Charente. Bon, c'est pas simple, hein, cette réforme des régions. Mais ça va être encore moins simple. Et là, je vous demande vraiment d'enquêter parce qu'il paraît qu'ils ont déjà des noms. Quand ils vont nous annoncer le nom qui va être donné à chaque région,
oui.
Parce qu'il va bien falloir choisir. Ouais. Alors, est-ce qu'on va dire Picardie ou Champagne-Ardenne? Et si on fait un mélange des deux, qu'est-ce que ça va donner? Picardie-Ardenne?
Et puis surtout, il y a des
alcoolémie.
Il y a des commerces. Il y a des commerces qui dépendent du nom de la région aussi.
C'est-à-dire?
Ben, c'est pas des fromages, du champagne, oui. Par exemple, des choses comme ça.
Charente-Poitou, tu te souviens? Mais maintenant, on peut plus faire ça.
C'est vrai, Pierre.
C'est vrai que ça m'a manqué, hein.
Tu peux pas chanter. J'irai revoir ma Picardie, Champagne-Ardenne, c'est le pays. Tu
comprends?
Normandie. Non, mais ça, alors là, je veux les noms en exclu sur Europe 1, Paul.
Ah bah, ça pour Europe 1 et pour vous, je vais les donner en exclusivité sans problème. Hein.
Autre exclusivité, on nous dit qu'à partir du 14 juillet, les restaurants seront obligés d'inscrire sur leur carte la mention « fait maison » à côté des plats qui seront effectivement faits maison,
ça,
même
c'est
si
bien.
C'est fait à partir de produits surgelés. S'il y a transformation, ce sera fait maison. Hein. J'ai bien compris ça, Paul.
Oui, vous avez bien compris. Alors... C'est-à-dire le fait maison, c'est vraiment fait devant les fourneaux. C'est-à-dire pas de conserve,
voilà.
Pas de surgelé, pas de micro.
Si, ben vous n'avez pas l'entendre ce que je viens de dire. Si, je crois
ça
justement.
Ça doit être transformé sur place.
Ça doit être transformé sur place, mais on peut utiliser par exemple des petits pois surgelés. De toute façon, la question ne portait pas là-dessus, mon cher Paul, parce qu'on nous dit qu'il y aura un logo. Parce que ça va être trop long de marquer fait maison sur toutes les cartes à côté de chaque produit fait maison ou chaque plat fait maison. Il n'empêche donc que pour qu'on comprenne, il y aura un petit logo. Sauf que dans la presse ce matin, qu'est-ce que je lis ? Il s'agira d'un logo officiel, un visuel qui pour l'instant reste un secret bien gardé. Bien gardé, on va dire pour le commun des mortels.
Mais pas pour nous, Laurent.
Mais pas pour Paul Vermus, évidemment.
Mais non, je vous dirai tout à l'heure.
Quel est ce logo officiel? Ce visuel resté secret jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à avant 18h quand vous nous donnerez la réponse, Paul.
Parce que officiellement, ce logo, il deviendra public le 14 juillet.
Et oui.
Et nous, on aura un mois et demi d'avance.
Et oui. Même la presse ne le donne pas, ce visuel,
mais
aujourd'hui.
Mais c'est pas mon job. Vous et comprenez pourquoi je suis surpayé?
Et oui. Et puis le troisième challenge concerne les trois lettres de démission de Madame Fourneyron, puisque le Canard Enchaîné nous dit qu'elle a dû écrire trois fois au président de la République à l'Élysée pour dire qu'elle voulait démissionner parce qu'elle était en mauvaise santé, mais que sa première lettre était restée sans réponse. Alors elle en a envoyé une deuxième, toujours pas de réponse, et puis une troisième à François Hollande. Et comme c'est le Canard Enchaîné qui dévoile ces trois lettres envoyées par Madame Fourneyron avant qu'enfin elle obtienne une réponse, et que le Canard Enchaîné sort le mardi après après-midi. Nous, on l'a dans les rédactions dès le mardi après-midi. Je me demande si, au fond, c'est pas cette publication par Le Canard de cette affaire des trois lettres qui a déclenché le mini-remaniement d'hier. Parce que d'un seul coup, on nous a annoncé hier qu'elle était remplacée par une autre femme pour le commerce extérieur. Mais au fond, pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt, puisque ça fait déjà une dizaine de jours que Mme Fourneyron dit qu'elle démissionne par courrier. Où était passé son courrier? Pourquoi il a fallu trois lettres pour qu'enfin ce remaniement existe? Ça aussi, c'est une enquête sérieuse.
Ah ouais, ça, c'est du travail. Hein.
Pourquoi le président n'a pas eu sa première lettre, vous savez, ça?
Ben non, je ne sais pas encore. À mon avis, il y a plusieurs solutions. Hein. Il y a plusieurs solutions. Moi, il faut que je vois du côté de l'Élysée. Je vais regarder du côté du secrétaire général de l'Élysée. Je vais regarder du côté du ancien cabinet de Valérie. Et puis...
Et elle est bien, sa remplaçante, rappelez-moi son...
Je ne connais pas, il paraît que c'est un très bon député, mais je ne connais absolument pas.
Rappelez-moi son nom d'ailleurs, Paul.
Bah écoutez, elle s'appelle comme elle s'appelle, hein, vous savez.
Carole Delga, je vois que vous êtes sur le coup. Réponse avant 18h, Paul. Page entière, c'est ce que le journal L'Équipe consacre à Grégory Gaultier aujourd'hui, et à juste raison, puisqu'il est devenu numéro un mondial de son sport depuis deux mois. De quel sport s'agit-il ?
Le hockey sur glace.
Non.
C'est un sport de combat, ça.
Non, non. Une page entière, et c'est vrai qu'on ignore qu'on a un Français numéro un mondial dans sa discipline.
C'est un sport intéressant.
Grégory Gaultier.
Les fléchettes.
Les fléchettes, non.
Non, mais c'est un sport...
Le golf.
Le golf, non.
C'est un sport prestigieux.
C'est un sport intéressant et c'est l'équipe. Hein. C'est pas un sport à la
course.
C'est
joué qu'une balle.
C'est quand même le journal L'Équipe qui fait une page entière. Donc c'est pas le lancer de petits pois, voyez.
Le plongeon.
Le plongeon, non.
Il est pratiqué.
En moto,
non.
Mais il est sur un engin.
C'est mécanique.
C'est pas mécanique.
Ça se joue qu'une balle.
Ça se joue avec une balle.
La pelote basque,
non, mais on se rapproche.
Le jeu de paume.
Non.
Le squash.
Bonne réponse de Florian Gazan. On a un numéro un mondial au squash. Quoi, ouais.
C'est pas le premier.
Ouais,
hein.
Mais vous, ça vous a plu parce que vous jouez au squash?
Non, j'y joue plus d'ailleurs, mais je suis fidèle,
et
madame.
Pourquoi vous jouez plus?
Parce que je fais de la boxe à la place depuis, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous marrez?
Il fait de la boxe. Non, ça semble être une évidence.
Il
fait de la boxe.
Maintenant, je suis un mec, quoi. Non, mais
tu te demandes pourquoi Morlex revient, forcément.
Mormec.
J'ai l'air d'avoir des frères comme toi, moi je remonte sur le ring.
Pierre est en train de jouer dans son coin uniquement pour la dame au premier rang. Ouais. Je le dis pour les auditeurs.
Ouais, hein. Il fait des mouvements du shadow boxing. Non, shadow boxing, tu connais mon esquive rotative. La tornade algérienne.
Voilà, là, c'est la brise algérienne.
Non mais écoutez, une page entière, comme c'est formidable pour ce numéro un mondial. Ouais. Le squash, c'est pas un sport à la con, hein. C'est un sport énormément pratiqué en France, même si hélas, il n'est pour l'instant pas encore un sport olympique, ce qui d'ailleurs est totalement injuste, parce qu'il y a des sports à la con au JO qui pourraient laisser leur place.
Bien sûr.
Mais tu joues tout seul.
Mais non, tu joues pas tout seul au squash, on joue à deux.
Toi, tu jouais tout seul.
Mais non, non.
Si
non,
je
non.
t'ai vu contre un mur.
Mais non,
à l'entraînement, tu peux.
Mais la boxe aussi, il joue tout seul. Il y a un mec devant lui et qui se laisse taper.
Non, croyez-moi, si.
Oui, si.
Tout seul au squash, c'est pas possible. La balle rebondit trop vite. Vous l'auriez pas. Vous pouvez vous entraîner sur 2-3 balles, mais franchement.
Mais c'est quoi le but du squash?
C'est de rattraper la balle.
Oui. Mais c'est bien de la taper sur un mur.
On la tape sur un mur suffisamment intelligemment pour qu'elle rebondisse assez loin de l'autre, de votre adversaire, qui lui pourra pas la rattraper.
Et s'il y a deux rebonds, tu perds le point.
Voilà, tout simplement. Enfin, Christine.
Mais c'est d'autant plus méritoire cette victoire d'un Français. Qui fait toujours plaisir à certains qui sont patriotes, pas comme tous ici, c'est que c'est un sport extrêmement pratiqué en Amérique surtout. C'est surtout aux États-Unis.
En Inde. Donc,
et en Inde
et au
aussi.
Pakistan, au Pakistan.
Il n'y a pas depuis qu'on a perdu les Indes, de toute façon. Mais l'Inde et Pakistan, c'est. Alors, c'est étonnant que ce soit un petit Français. Un petit Français. En banlieue parisienne avec des chats aussi.
En banlieue parisienne.
Non, c'est quand même les championnats d'Europe qui démarrent aujourd'hui. Les championnats d'Europe de squash. Une page entière pour le numéro 1 mondial. Okay, c'est bien de le rappeler quand même.
Ouais, c'est bien.
Ah, là, Pierre Bénichoux devrait répondre à cette question. Bah, là, ça va vous concerner, Christine. Ça va vous botter même. Puisque
combien d'huile d'olive faut-il ?
Cette grande surface aura 500 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Un espace grand. D'ailleurs, ce sera le plus grand de la marque en Europe. C'est donc une nouvelle boutique qui va ouvrir
sur
les
Champs.
C'est pas tout à fait des fringues.
C'est Cartier ?
C'est pas Cartier. Deux étages sur les Champs-Élysées, 500 mètres carrés, ce sera l'espace le plus grand de la marque en Europe. La marque...
Bricorama.
Non, non, pas Bricorama sur les Champs-Élysées.
C'est des produits de maquillage ?
C'est pas du maquillage, ça devrait concerner Pierre Bénichoux.
Ah, des pyjavestes ?
Non, 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 non. En 2013, un chiffre d'affaires de 462 millions...
Ah, t'as dit ?
Non, de
Weston.
Ça, c'est pas des fringues.
462 millions d'euros. Il y a sûrement des fringues aussi, mais c'est pas...
Bébert, le roi du couscous ?
C'est pas essentiellement des fringues.
Vous êtes gentil.
Oh là là, et il y en a... Pourquoi ailleurs dans Paris.
Ah oui, il y en a ailleurs dans Paris, mais c'est le premier sur les Champs, 500 mètres carrés,
Apple,
deux étages.
Apple ?
Apple, Apple non, 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 non.
C'est des fringues ?
C'est pas des fringues.
Adidas. On a dit trois fois,
c'est
mais
des chaussures de sport.
Non, non, mais pour non. Pierre, je cherche pour Pierre. C'est des grands magasins, quoi. C'est comme le BHV ou
non,
les Galeries Lafayette.
Non, non,
c'est du parfum ?
Non, c'est une marque spéciale.
Ça se mange ?
Ça se mange pas.
Ça se met ?
Ça se met. Il y a des choses qui se mettent, d'autres qui se mettent pas.
Et quel rapport avec Pierre Bénichoux ?
Ah bah vous verrez quand vous aurez le nom de la marque.
H&M ?
Benetton ?
Non. Mais enfin, c'est des fringues, arrêtez !
Lacoste.
Lacoste, non.
Ça concerne Pierre.
Oui, le nom de la marque.
Courte Paille.
Courte Paille, non.
Ah.
À Courte Paille sur les Champs-Élysées, je dois dire.
Ce serait génial.
Ah bah alors c'est un... Ah bah non, ça se mange pas. Ça ne se porte pas et ça ne se mange pas.
Il y a des choses qui se portent, évidemment.
Des lunettes ?
Non, pas des lunettes. Non.
Sony.
C'est une marque.
Des chaussures, il y a des chaussures. C'est des chaussures.
Ah, il y a sûrement des chaussures, mais je suis pas sûr.
Mais je vois pas en quoi.
Alors c'est Nike.
C'est pas Nike.
C'est une marque américaine ?
C'est une marque française, monsieur.
Ah, mais Nike, il y a des sacs.
Ah, il y a des sacs, oui.
Il y a des sacs connus.
Vuitton, Louis Vuitton.
Vuitton, non.
C'est Vuitton, ils sont sur...
C'est du luxe ou pas ?
Oui, mais Pierre avec des sacs.
C'est du luxe ou pas ?
C'est du luxe.
T'as ton tas ?
C'est cher.
À Dior.
Dior.
Dior, non.
Est-ce qu'on en a
des bijoux ? C'est des bijoux ?
Non, c'est pas des bijoux, c'est des...
Est-ce qu'on en a ?
C'est des sacs, il y a des sacs.
Chanel ?
Qui fabrique des sacs ?
Ah bah tout le monde.
Chanel ?
Yves Saint Laurent.
Non mais le métier c'est quoi ?
Longchamp, Longchamp.
Hermès.
Longchamp. Ah. Bonne réponse de Titoff.
Oh, il y a des fringues.
Oui,
Longchamp.
C'est plus pour Christine que Pierre.
C'est
Longchamp.
Des
Longchamp. Ah non, Longchamp c'est Pierre. Turf c'est quand même Pierre.
Ah ouais.
Je suis désolé. Et Longchamp c'est pas des fringues. Non, Longchamp c'est des sacs à main.
Un maroquinier.
Un maroquinier c'est pas des fringues, un maroquinier. Pardon. Il y a peut-être deux trois paires de godasses.
C'est pas luxe.
Ah, c'est pas luxe.
C'est une belle marque.
Ah non, c'est pas luxe. Très...
Ah non, c'est pas luxe. Non,
c'est pas complètement
non,
luxe.
Non, c'est avant le luxe.
C'est un petit peu avant.
Bah oui.
C'est très bonne maroquinerie, mais le luxe, c'est Vuitton et surtout Hermès.
Je peux faire un sac Chanel qui a un sac Longchamp.
Longchamp, c'est pas luxe. C'est pas donné, quand même.
Non, comme... mais c'est comme Lancel, c'est ce genre-là.
Ah, Lancel, c'est du luxe aussi, non ?
Non, non,
non.
Mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, toi ? Tu sais plus ce que c'est que le luxe.
Pour moi, Lancel, c'est du luxe, je suis désolé.
Vous allez se fringuer chez Brice et Jules bientôt, tu vas voir.
Enfin, vous habitez Paris ?
Mais non, enfin, c'est pas donné, Lancel.
C'est pas une question de donner.
C'est le prestige.
C'est le prestige de la marque Chanel, Dior.
Non, mais non, c'est pas donné, mais c'est six fois moins cher.
Saint Laurent.
C'est six fois moins cher que qu'Hermès.
Ah oui ?
Mais voilà.
Hermès, Lancel.
Mais bien
enfin,
sûr,
peut-être
pas
cinq
fois moins
enfin,
cher.
Quand vous rentrez chez Lancel, il y a une sorte d'ambiance un peu comme chez Nespresso.
Oui, mais il n'y a pas de Chinois, par exemple. Les Chinois vont que dans les boutiques de luxe. Tu les vois pas chez Lancel. Tu les vois
là
chez
où
Chanel,
tu vois des Chinois, c'est du luxe.
Voilà.
Voilà.
Ah.
Voilà. Tu comme ça, tu reconnaîtras maintenant. Tu vois du Chinois, c'est du luxe.
Tu vas rentrer dans un restaurant. Et, ouais,
c'est un restaurant de luxe. Il y a des nems.
Alors, je vois des nems, ben voilà. Ouais, 350 euros. Ah ouais, Christine me l'avait dit. Hein.
Non, mais c'est pas vrai. Il y a quand même. C'est comment elle s'appelait, la petite Manodou qui faisait de la publicité pour Lancel.
Ah, oui,
bon, c'est pas luxueux. Hein.
Ah oui
bon,
c'est pas un mannequin, Manodou.
Il ne démord jamais de rien. Tu lui prouves. Il te dit non, mais c'est quand même du luxe. Non. Un sac chez Lancel vaut ce qui est très cher, 1000 euros, disons. Le même genre chez Hermès vaut 8000 euros.
Donc Longchamp, c'est encore moins bien que Lancel.
Ah ouais.
Non.
Dans deux minutes, vous allez me dire que c'est un sac Monoprix, le truc.
Non,
Longchamp, c'est bien, par contre.
C'est équivalent, c'est supérieur.
J'ai vu trois Chinois chez Monoprix l'autre fois. Donc
on va se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30. Laurent Ruquier.
Toujours avec Pierre Bénichoux, Christine Bravo, Yann Moix, Florian Gazan, Titoff et Fabrice Eboué. Et une question concernant un article paru dans le Canard Enchaîné aujourd'hui. Un article qui revient sur l'interview de Carla Bruni dans Elle la semaine dernière. Interview choc, je veux chanter, qu'on me laisse tranquille, hein, souvenez-vous, disait l'ex.
On est d'accord, hein.
Première dame de France. Mais elle ajoutait dans cette interview, et c'est ça évidemment qui a amusé le Canard Enchaîné, elle ajoutait, quand elle était à l'Élysée, hein, elle parle de sa période de première dame de France, quand j'étais à l'Élysée, dès que je voulais changer un rideau parce qu'il avait un trou, Je faisais quoi ? Qu'est-ce qu'elle faisait ?
Elle le cousait ?
Non.
Elle remplissait une fiche ?
Non. Dès que je voulais changer un rideau parce qu'il avait un trou, je...
J'agrandissais le trou pour qu'il se soit évident et qu'on vienne le réparer.
Non, mais...
Mais c'est pas loin.
On se rapproche, c'est l'idée, évidemment.
Je le finissais ?
Non.
Je le brûlais ?
Non.
Je décrochais le rideau ?
Non.
J'en parlais à mon mari ?
Non, enfin sûrement aussi.
J'appelais le premier ministre. Ouais.
J'appelais Claude Guéant.
Non.
J'en parlais à mon mari, tu vois le mec, il est en train de discuter avec Poutine.
Il y a un trou au rideau.
Chérie, il y a un trou au rideau, il y a trois jours que... Non, mais...
Eh ben, je décousais l'ourlet, je...
Non.
Je regardais son prix.
Évidemment, c'est par rapport au prix, c'est par rapport aux dépenses de l'État. C'est...
Ah, elle demandait un financement à Big Malion.
Et là, elle avait des doubles rideaux. Non.
Bah, elle regardait la redoute, les catalogues, elle feuilletait les catalogues.
Elle va le changer, le rideau, il n'y a pas de problème.
Elle prend une photo.
Elle prend une photo du trou dans le rideau, au cas où il y aurait une enquête du Canard enchaîné sur l'utilisation de l'argent public. Bonne réponse de Fabrice Éboué. Bon, alors, j'imagine qu'elle plaisantait en disant ça. On la voit pas.
Ça les rend parano. Je te
oui.
J'imagine si la chasse d'eau tombait en panne, elle a pris en photo les chiottes comme ça. Alors...
Non, il y a une façon de le faire qui n'est pas ridicule. C'est que tu photographies le rideau avec le trou et tu envoies au monument les gens qui s'occupent. Ça s'appelle pas monument historique, c'est le mobilier national. Tu envoies ce truc-là en disant « Serais gentil de changer le rideau, regardez dans quel état il est. » Et ça sert de document. Si jamais quelqu'un dit, regarde sa coquetterie.
C'est ce qu'elle disait dans elle. Au cas où le Canard enchaîné ferait une enquête sur l'utilisation de l'argent public. Alors évidemment, le Canard ajoute à la fin de l'article, quitte à prendre des clichés pour les enquêtes sur l'utilisation de l'argent public, car là, aurait mieux fait de photographier les factures des meetings des campagnes de son mari.
Non, c'est pas gentil, ça.
Non, mais un trou dans le rideau, ça sera commode aussi, Christine, chez vous.
Sûr.
Quand vous avez, vous devez avoir, vous fumez.
Moi, j'ai pas de rideau, moi.
Non, ah bon?
Ah non?
Non, j'ai pas de rideau.
Ah, c'est pour ça qu'ils se régalent, les voisins.
Elle a des persiennes.
Alors, comment vous faites quand vous voulez changer vos rideaux, Pierre? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour vous. Faites pas ça tout seul. J'imagine, vous voyez mal monter sur un tabouret, enlever anneau par anneau autour de la tringle le rideau qui est accroché.
Il n'y a pas de tringle.
Alors, il y a deux trucs. C'est quand même quand maintenant on est revenu.
Il a eu une tringle.
Mais j'ai des tringles partout. Il y a eu à une époque où c'était des anneaux comme ça. Et après ça, ils ont inventé le truc où on tire et on s'en mêle et ça marche pas. Et maintenant, on fait plus ça. On est revenu aux anneaux. T'as remarqué ?
Oui, j'ai remarqué.
Mais non, tu remarques rien, toi.
Il y a quand même des choses qui se passent.
J'habite pas dans du meublé, moi. Moi, c'est les trucs que je fais tout seul. Oh là là, j'ai trouvé.
J'ai trouvé.
Allez-y, racontez.
Mettez une musique.
Ouais. J'ai trouvé un organza pour mettre, tu sais, dans mon salon de musique qui est absolument adorable. Non, moi, j'adore les rideaux.
Ouais. T'adores les trous aussi, hein. Ouais, ils sont pas que dans les rideaux.
Bon alors, trous. L'histoire, ça partait bien.
Il s'est relancé. Il s'est relancé.
Non, je crois avoir de l'humour, mais là, sur moi-même, mais là, que tout le monde se moque, non.
Et là, on dit rideau.
Non, mais c'est un naufrage. C'est le rideau de la Méduse. Si je vous dis qu'on va voir les mimiques débarquer en Normandie, de quoi s'agit-il ?
Un rapport avec la célébration du débarquement.
Vendredi prochain, le 6 juin, le D-Day, pas du tout, Christine.
Ah bon ?
Non.
Les mimiques, c'est une troupe ?
C'est une troupe, en quelque sorte. C'est une bande, en tout cas, les mimiques.
C'est une armée ?
Ah, c'est une armée, oui, les mimiques, en quelque sorte, oui. À partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, on va aller voir les mimiques.
Ils ont des revendications ?
Non, bah, sûrement, oui.
Ils sont pas des animaux ?
Les mimiques sont... un peu des animaux.
Oui, ce sont les méduses.
C'est un mélange d'animaux et...
Et d'humains.
Et ça se déplace ?
Ah, les mimiques se déplacent.
Des centaures.
Alors ça s'écrit M-I-M-I-C-S, les mimics, si vous préférez.
C'est de l'anglais, alors.
C'est de l'anglais.
The Mimics.
The Mimics, si vous préférez.
Ils sont mi-hommes, mi-humains, ou bien il y a des animaux et des hommes ?
Ah, ils ont... Non, bah si je vous les décris, c'est pas rigolo, évidemment.
Bon, alors c'est...
Allez les voir, vous verrez.
C'est des dessins animés, enfin.
C'est pas des dessins animés.
Ah, mais c'est un film, c'est ça, allez les voir.
Voilà.
C'est un film ?
Si ça avait été vraiment moitié humain, moitié bête, qui débarquait en Normandie, ça aurait fait plus de bruit.
Ah, c'est sous les jupes, mi-homme, mi-chatte.
Oh non. Non, c'est pas le film d'Audrey Lala.
Alors, si
européen,
c'est, si c'est pas un dessin animé, tu dis.
Non, c'est pas un dessin animé. On va voir les mimiques sur les plages du débarquement à partir d'aujourd'hui, mais dans quelles circonstances ?
C'est pas le film de Tom Cruise ?
Heureusement qu'il y en a un qui suit l'actualité dans cette émission.
Ah oui.
Edge of Tomorrow, c'est ça ?
C'est exactement Edge of Tomorrow, le film de avec Tom Cruise, un film de science-fiction en 3D. Bonne réponse de Florian Gazan.
Ah, il est fort, le Florian.
Il doit défendre la Normandie contre, effectivement, des extraterrestres.
Exactement. Tom Cruise incarne un soldat qui débarque en Normandie pour terrasser ces extraterrestres.
Mais à quelle époque ?
Les mimiques sont des machines
Dans le futur.
Dans le futur. Sont des machines à tuer, les mimiques. Ils ont eu des têtes d'araignées géantes. Enfin, des araignées à tête de vampire.
Oh, le pain. Mais il doit y avoir un symbole. Doit y avoir un symbole quand on débarque pour tuer les autres. C'est exactement comme il débarquait pour tuer les nazis.
Mais il doit y avoir des trucages.
Mais oui.
C'est Frédéric Lopez qui les a ramenés.
Ils sont dans le sable, les mimics, et évidemment.
Ils sortent du sable.
Et oui, uberlisés, ce qui est normal d'ailleurs hein, quand on parle du sable. Uberlisés et écrit dans le Parisien aujourd'hui qu'il faut voir là-dedans évidemment une allusion au débarquement. Bah oui. Ça n'est pas fortuit au premier assaut.
Et voilà, et qui l'a dit, le beau Pedro. Bien sûr, il y a du symbole.
Le major Bill Cage, joué par Tom Cruise, un militaire contaminé par du sang extraterrestre qui lui permet de ressusciter à chaque fois. C'est-à-dire que
ça, c'est bon, ça.
C'est comme
un
jeu vidéo, en fait.
C'est comme un jour sans fin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il redébarque.
Oh, c'est chiant.
Et il est heureusement aidé par la redoutable Rita Vrataski. C'est Emily Blunt qui joue. Et Emily Blunt qui joue Rita Vrataski. Vous savez comment on l'appelle dans le film ?
Non.
Full Metal Salope.
Ah, c'est bon.
Ah non !
Si. Full Metal Beach.
C'est grave.
Elle s'appelle Full Metal Salope.
Non, Beach, B-E-A-C-H.
Non,
Beach.
Non, mais moi, je vous dis ce qui est écrit dans le Parisien. Full Metal Salope.
Plein Metal Salope.
Mais
quoi ?
Oui, parce que si tu dis
pas full metal, tu dis. Ou bien tu dis plein Metal Salope. Tu dis
full metal bitch.
Mais non, mais parce que
c'est une allusion au film.
C'est parce que si je dis plein métal, on comprend pas full metal.
Non, mais c'est eux qui c'est la salope pleine de métal.
Mais non, c'est l'allusion au film de Kubrick.
La salope
pleine. Mais du coup, Stevie va croire que full metal jacket, c'est sur les gays.
Non, mais écoutez, on s'en sortira pas.
Full metal jockey aussi pour Pierre.
Le film sort aujourd'hui, Edge of Tomorrow. N'empêche que Tom Cruise est toujours quand même d'actualité et qu'il est toujours un héros au cinéma. Il a juste perdu un truc là, c'est qu'on nous a annoncé que c'est Brad Pitt qui jouerait le remake des 7 mercenaires, alors que ça devait être Tom Cruise.
Ils sont 7.
Ouais, mais il y a un leader dans les 7 mercenaires.
Steve McQueen.
C'est Steve McQueen.
Bah non, c'est Yul Brynner.
Pardon ?
C'est Yul Brynner.
Le chauve.
Bah, c'était lui le oui, leader des 7 mercenaires.
Je croyais que vous alliez dire c'est Sidney Poitier. Vous voyez.
C'était lui le chef dans la fiction. Mais dans le rendu cinématographique, c'était Steve McQueen, la vedette.
Gentil, quoi.
Il y a des fois où le troisième prend le... etc. Tu vois ce que je veux dire. On va pas s'emmerder là-dessus, par exemple.
J'ai l'impression que Pierre, il est un peu comme la réforme des régions. Il a été fait par François Hollande. On a le début du truc, mais on sait pas comment ça va se terminer.
Non.
Qu'est-ce que Valéry Giscard d'Estaing va faire cette semaine qu'aucun autre ex-président de la République française ne fera ?
Fêter son élection ?
Non. Qu'est-ce que Giscard va faire cette semaine qu'aucun autre ex, parce qu'ils sont quand même 3 ex encore en vie, il faut quand même le rappeler, Giscard, Sarkozy et évidemment Jacques Chirac.
Fêter ses 40 ans d'après-présidence ?
Non. Et c'est très rare chez Giscard. C'est une des rares fois où il va le faire.
Annoncer qu'il se représente ?
Non, quand même pas, non.
Je n'y crois plus.
Ça a rapport avec le débarquement ?
Oui.
Parce que je crois qu'il a toujours été hostile aux célébrations, non ?
Oui.
Il va être présent aux festivités ?
Il va être présent à côté de François Hollande aux festivités du débarquement, alors que Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac n'iront pas.
Je crois qu'il a dit qu'il y allait, Sarkozy, finalement.
Ah, hier encore, il n'y allait pas.
Hier soir, il a dit qu'il y allait finalement.
Ah oui, il a changé d'avis.
Oui, il y aura Poutine, donc il se dit je vais y aller.
Ça alors. Moi, on me dit rien. Moi, j'étais là à regarder le trou dans le rideau et pendant ce temps-là, je savais pas ce qui se passait dans le bureau d'à côté.
Il a dit qu'il irait.
Ah bah ça alors. Ouais. C'est con pour Giscard. Pour une fois qu'il allait être le seul ex.
Franchement, vous débarquez.
Alors, mais écoutez, moi dans la presse, c'était encore écrit ce matin que Nicolas Sarkozy n'y allait pas, mais je vous crois volontiers. Donc, ils seront deux ex alors, Sarkozy et Giscard présents. présent aux commémorations du débarquement. Et c'est vrai en tout cas que Valéry Giscard d'Estaing a toujours mis un point d'honneur à ne pas aller à ce genre de manifestation. Il n'est jamais allé au truc d'ex-président en fait. Il n'aime pas ça. Mais là, il y sera. Il faut dire que là, quand même, ça commence à être un peu oublié, on va dire. Ça.
Ouais, et puis il peut rencontrer des vieux de son âge aussi.
La date du 35 mai est inscrite dans Libération.
Ouais, mais j'y crois pas.
Aujourd'hui.
Ça, je crois que c'est un rapport avec Tiananmen.
Expliquez.
C'est un code secret pour ne pas se faire choper et pour ne pas célébrer officiellement le 4 juin 1989. Les internautes utilisent le code de 35 mai.
Alors, le 4 juin 89, qu'est-ce qui se passait ?
C'était les événements de Tiananmen où les étudiants chinois ont essayé de s'opposer au régime.
Excellente réponse de Yann Moix.
Ah ouais, mais là.
Effectivement.
Ah bah oui, mais
tout ce qui est Asie.
Tout ce qui est dictature et asiatique, c'est pour lui. Hein.
Ça fait 25 ans que sur la place Tiananmen, il y a cette célèbre photo, parce que même les plus jeunes qui nous écoutent ont au moins vu une fois dans leur vie cette photo du jeune étudiant tout seul face à un char chinois, place Tiananmen. Et ça, ça date d'il y a 25 ans déjà maintenant. C'était effectivement le 4 juin. Et quand les internautes chinois veulent parler de ça, comme ils veulent pas être repérés par les services d'espionnage chinois, ils mettent pas 4 juin. Mais en même temps, je trouve ça idiot de mettre 35 mai parce que c'est encore plus reconnaissable 35 mai.
Non, mais c'est moi je crois qu'il y a une dimension qui était peut-être au début humoristique et qui maintenant est un pied de nez.
Ah oui.
Et puisqu'au 4 juin, on peut pas le dire, on va dire le 35 mai. Bah, tu vois, c'est un peu.
Parce que alors, franchement, s'il y a bien un truc repérable comme date, c'est celle-là, le 35 mai.
Ils ont qu'à dire le 66 avril.
Si t'as pas le droit de dire dimanche, tu dis alors après samedi. Ah, tu vois, c'est un peu pour dire espèce de con, vous nous empêchez de commémorer ça alors que c'est une date énorme. Il paraît qu'il y a eu plus de 3000 morts d'une armée qui tirait. Sans discrimination, je veux dire, il disait pas, il tirait dans la foule, il avait ordre de tirer.
Il faut voir ce que c'est que la place Tiananmen, hein. C'est quand même grand comme le centre de Paris.
Comment ça?
Faut pas imaginer que c'est les Invalides, quoi.
Ouais, tu penses que 3000, c'est pas beaucoup, quoi.
Non, je veux dire, c'est pas étonnant qu'il puisse tirer dans la foule, c'est une place qui est immensissime, c'est gigantesque. À Paris, on tire dans la foule, on fait 200 morts. Là, 3000 morts, parce qu'il y avait un monde absolument gigantesque, je veux dire. Oui,
t'avais qu'à dire, c'est proportionnel.
Moi, j'y suis allé, il y avait un nombre de Chinois et pas une boutique de luxe.
Tu vois qu'à l'échelle de la place, un char, c'est une smart, quoi, en fait.
C'est ça. Ce qui est triste, c'est qu'on puisse pas commémorer cette date, quoi. Ça prouve que la Chine évolue en termes de capitalisme, mais pas en termes de démocratie. C'est-à-dire qu'on met la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que c'est comme si l'économie de marché précédait l'avènement de la démocratie. C'est comme si le 18e siècle avait lieu en France après le 19e siècle. C'est très étrange.
Gary Arnstein, c'est une autre question. C'est dit lundi très pessimiste sur les chances. Mais les chances de quoi ? Gary Arnstein est un ancien délégué médical de la FIA.
La FIA, c'est de la bagnole.
Bravo.
Bah, c'est Schumacher, alors.
Schumacher, bonne réponse de Florian Gazan. Ben oui, on n'en parle plus de Schumacher. Tout le monde l'a oublié, mais.
C'est qui l'occupe une chambre à Grenoble, hein. Faut libérer, hein, monsieur. Hein.
Mais c'est vrai, il est toujours hospitalisé à Grenoble.
Il est hospitalisé en Auvergne maintenant.
Ouais, c'est vrai.
Depuis 5 mois.
Il va se réveiller, il va être paumé. On est où là ?
Où est-ce que je suis ?
On est où là ?
On est toujours en France, rassurez-moi.
Il fait du hors-piste. Depuis 5 mois, quand même, il est dans le coma et ce docteur dit voilà, c'est le délai. Passé 5 mois, seule une petite fraction de patients en état végétatif parviennent à reprendre conscience. J'ai bien peur, déclare-t-il, que nous n'ayons jamais de bonnes nouvelles concernant Schumacher. C'est vrai qu'on nous en parle plus de cette affaire-là. On ne sait pas si dans quel état il est vraiment.
Rien n'est moins journalistique que l'état stationnaire. Ça ne bouge pas, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas faire Schumacher, ça ne bouge pas tous les jours.
Tu ne peux pas l'écrire tous les jours.
Ben, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, au bout de 5 mois, vous voyez, il y a quand même un petit article qui nous dit, vous voyez, passé 5 mois, c'est...
Eh bien, on en parlera quand
mais
on débranchera.
Il y a de temps en temps, on voit, je ne sais pas, moi j'ai vu ça 10 fois dans ma vie.
Des miracles.
Il se réveille au bout de 2 ans. Ah ben,
même ici, j'en ai vu en dernière heure, parfois. Okay. Non, c'est vrai, on peut toujours être surpris.
Non mais il est égoïste, le mec, parce qu'il pourrait commencer à donner ses trucs, quoi, tu vois.
Qui ?
Ses poumons, son cœur, son foie. Ah ouais, Schumacher.
Petit à petit.
Sans
trop prendre de risques.
Oui, non mais...
Un mois, tu donnes un truc.
Les organes sont bien reposés.
Tu te fais signer un papier, mais si jamais je me réveille, vous me le rendez.
Quelle horreur.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, challenge.
Au
Auditeur contre chroniqueur.
Je vous présente Magali et Gauthier. Bonjour Magali, bonjour Gauthier.
Salut Laurent, bonjour à toute l'équipe.
Ah, je suis gêné, on va encore croire que c'est du favoritisme, mais je m'aperçois que Magali est du Havre. Bonjour.
Bonjour.
Vous jurez sur la tête de votre mère qu'on ne se connaît pas, Magali?
Ah non, non, on ne se connaît pas.
Et c'est ta sœur.
Bah, il n'y aura pas de problème. Embrasse maman. Il a dit jurer la tête de maman.
Magali, vous faites quoi dans la vie?
Je suis infirmière.
Infirmière. Ah, je peux avoir besoin.
Ça se rapproche.
C'est la sœur d'un mec qui se bourre à la télé là pour travailler.
Je suis infirmière. Mon frère était comptable.
Gauthier est à Lille. Bonjour Gauthier.
Bonjour Laurent. Bonjour toute l'équipe.
Vous êtes ch'ti, vous?
Oui, absolument, de Lille.
Et oui, ch'ti de Lille. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Infographiste 3D en recherche d'emploi.
Aïe, 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 aïe. Ben alors voilà, développez votre CV pour que quelqu'un vous propose un job en écoutant Europe 1. Nous vous écoutons.
Alors, je m'appelle Gauthier, je suis infographiste 3D. J'ai une licence concepteur-réalisateur 3D ainsi qu'une spécialisation obtenue à Montréal. Et je recherche un emploi d'infographiste 3D temps réel.
Ah ben voilà, il est bien.
Il est bien, ouais.
Moi, je l'embauche tout de suite, ce gars-là. Et votre dîner d'hier, Gauthier?
Alors moi, je me suis fait un petit carpaccio en noir et blanc de Saint-Jacques et de truffes sur sa galette de pommes de terre.
Oh la vache.
Sous-titré ou pas sous-titré?
On vous a pas demandé, on vous a pas demandé le CV de votre plat. Hein.
Non, mais il se fout de notre gueule.
Le mec, il est blindé. Christine a la raison. Hein.
Non, c'est le chômeur le plus riche de France.
Ah, une pizza. Tu vas voir qu'il est drôle.
Ben oui, il est drôle, Gauthier. Et vous, Magali, au Havre, qu'est-ce qu'on a mangé hier soir?
Des pâtes du jambon et des tomates cerises.
Ah oui, ça, c'est les plats du
Havre. Ouais.
Magali Gauthier, vous allez peut-être partir au Futuroscope à Poitiers. Un hôtel 4 étoiles vous attend. Et évidemment, vous profiterez de toutes les attractions du Futuroscope. Tout ça avec les lapins crétins qui ont envahi le parc. Pour voyager dans le temps, rien de tel que le tourbillon spatio-temporel qui vous sera proposé. Vous parcourrez ainsi les grands moments de l'histoire revisités par l'humour loufoque des lapins crétins. Le Futuroscope, sachez-le, n'a pas fini de vous surprendre. Deux jours, deux nuits, là-bas, en hôtel 4 étoiles. Magali Gauthier, voici la question. Pour quelle raison ne verra-t-on pas le match Nadal contre Ferrer, un match espagnol cet après-midi, ne le verra-t-on pas sur le court central de Roland-Garros, le court Philippe Chatrier? C'est très facile.
Parce qu'il sera sur un autre court?
Oui, ça c'est sûr.
Mais la bonne réponse.
Non, ils vont jouer.
Pourquoi?
Non, ils vont jouer deux matchs en même temps, un demi-court chacun.
Et pourquoi?
Pourquoi on met deux champions sur le Chatrier?
Pourquoi? Alors que c'était la finale de l'an dernier en plus, hein, la finale Nadal.
Ferrer. Le court il est couvert.
Parce que le court est couvert. Non.
Ah, réfléchissez.
Allez,
c'est facile.
4-5 secondes encore.
Parce qu'il est plus grand, il y a plus de place.
Non,
il est plus petit.
Bon, allez, on donne la réponse.
Et le plus grand, justement, ils n'auront pas le droit de jouer dessus cet après-midi. Pourquoi?
Il y a des travaux sur le plus grand.
Mais non,
non.
Alors allez-y.
Bah, parce qu'il y a Murray, mon fils.
Parce que le choix a été fait de faire jouer Gaël, mon fils, contre Andy Murray sur le court central. Bonne réponse collective. Je suis désolé, Magali et Gauthier. Pardon, Gauthier?
Je viens de le voir sur Internet.
Ah bah oui, mais là,
non, c'est honteux.
Là, Internet, ça vous joue des tours.
C'est trop logique, en fait.
Ben oui, ça vous joue des tours. Vous perdez du temps à chercher, alors que parfois, il suffit de réfléchir, tout simplement. Il y a quand même un match important aujourd'hui. C'est un Français qui jouait, oui. Ils ont préféré.
Toujours un Français.
Non, pas toujours.
Si, en fait, la dernière fois, déjà.
Non, l'explication qu'ils ont donnée pour faire passer la pilule au camp Nadal, parce que c'est vrai que pour Nadal, c'est un peu un crime de lèse-majesté de ne pas jouer sur le gros central, c'est de dire que Murray, qui lui est un des top 10, n'a pas encore joué une seule fois sur le central.
C'est honteux d'ailleurs cette histoire de central, que le central ne s'appelle pas Suzanne Lenglen mais Philippe Chatrier. Suzanne Lenglen, c'est quand même une des plus belles figures du tennis, celle qui a eu une féminine. C'était une championne formidable des années 30 avec Borotra et des gens comme ça. Et Philippe Chatrier, c'est un ancien directeur de la FFLT qui était journaliste sportif à Paris Presse, qui était assez décrié d'ailleurs. On a foutu son nom sur le court central et on a mis Suzanne Lenglen sur un petit court.
En tout cas, il fallait réfléchir, Magali et Gauthier.
Oui. C'était Laurent.
Oui.
Est-ce que c'est possible d'avoir votre radiographie dédicacée qui sort bientôt au Cherche-Midi?
Oh, Jean-Jacques Promo.
Alors là, je vous engage comme attaché de presse. Mais il est incroyable ce Gauthier-là. Je peux pas refuser, évidemment. Bon, alors d'accord. Dès qu'elle sort, on vous l'envoie, Gauthier. On vous embrasse. Merci, Magali. Vous aussi, on vous embrasse. Les lapins crétins ne seront hélas pas pour vous. En 2012, un record a été établi, un record de 87 jours d'intervalle. Mais de quoi s'agit-il ?
Sans Hollande fasse une connerie.
Pardon ?
Sans Hollande fasse une connerie.
Non, en 2012, il a fait mieux, je pense même. En 2012, 87 jours d'intervalle, un record qui a été établi. De quoi s'agit-il ?
Ça a rapport avec le sommeil ?
Ça a rapport avec le sommeil ? Non.
Avec le soleil ?
Non.
Avec l'alimentation ?
Pensez à 87 jours d'intervalle, ça devrait vous aider.
Ça fait quoi ? Ça fait 3 mois, 86. Quoi, en gros.
Hein. Eh oui.
C'est une histoire de météo ?
Non.
C'est saisonnier ?
Non.
Ça a rapport avec une grève de la faim ?
Non plus.
C'est quelque chose qui ne s'est pas passé en 87 jours ?
Comment ça, qui s'est pas...
qui aurait dû se passer, mais qui ne s'est pas passé ?
Voilà.
Oui, c'est ça, ça, d'intervalle.
Ah oui, évidemment, puisqu'il y a 87 jours d'intervalle.
Mais ça aurait pu se passer plus tôt, c'est ça que je veux dire.
Ah oui, évidemment.
Pendant lesquels Joey Star n'a
pas... Sans qu'il y ait un assassinat à Marseille ?
Non.
Sans que Joey Star n'ait été interpellé ?
Non.
Ça aurait pu se passer sans intervalle ?
Dans l'intervalle, tu veux dire ?
Oui.
Sans intervalle, avec un intervalle plus court, plus long.
Ah oui, ça aurait pu être une minute, même pas.
87 jours sans fausse facture de Big Malion.
Ça, c'est pas la météo, la pluie.
Non.
C'est en France.
Non. Oui. Non, en Irlande.
En Irlande. 87 jours sans essence de roue.
Non.
Sans touriste.
Non.
C'est un truc.
Est-ce que c'est 87 jours sans quelque chose?
Pas vraiment.
Ah bon, alors c'est pas le truc, je croyais que t'es 87 jours sans interville, je croyais que c'était le truc de...
C'est un phénomène naturel.
Avec quelque chose.
Non plus, non.
C'est un phénomène naturel.
Il y a eu un truc qui s'est passé à un moment donné, et l'autre truc...
87 jours, c'est arrêté.
C'est assez impropre hein, comme expression de dire un truc pendant un jour, et puis 87 jours plus tard, il y a eu le deuxième truc. Mais normalement, ça arrive le même jour.
Des naissances de jumeaux.
Des naissances de jumeaux. Bonne réponse de Yann Moix.
Mais comment t'as dit ça ?
J'ai dit ça pour déconner.
Bah, bravo.
Qu'est-ce qu'on raconte ? Il y a eu un prématuré, juste.
Non. Amy et Katie, deux petites jumelles irlandaises, détiennent pour l'instant le record du plus long intervalle de naissance de jumeaux. Il y a eu 87 jours entre la naissance des deux petites filles. Quoi.
Tu vois, est-ce que ça veut dire que c'est rarissime ?
Bien sûr.
Qu'il n'y ait pas de naissance de jumeaux avant 87 jours.
Bah, c'est pas la naissance de jumeaux. C'est la naissance de chaque jumeau. Oui. A eu un écart de 87 jours.
Il n'y a pas eu deux jumeaux un jour et puis deux jumeaux 87 jours plus tard.
Ah, c'est ça, j'ai compris.
Il y en a une qui est sortie, ok, maintenant que j'ai toute la place, je reste quoi.
Mais attends, donc il y a
forcément. Alors explique-moi.
Elles ont 3 mois d'écart. Au lieu d'avoir une minute d'écart ou. Elles ont 3 mois d'écart.
Les jumelles, les deux.
La première est sortie 3 mois après.
Il y en a une qui est sortie 3 mois avant.
Oui, c'est ça le truc, oui.
Ah, mais oui, alors c'est incroyable.
Écoute, Christine,
attends,
je croyais qu'il s'était passé 87 jours entre deux naissances de jumeaux dans deux familles différentes. Donc voilà pourquoi je dis.
Imagine les questions. Alors, c'est sur l'Irlande.
Ça a été un prématuré de 6 mois.
Donc voilà,
et l'autre est resté et venu à terme.
Voilà, il y a eu un prématuré.
Ils se ressemblent quand même.
Attends, je me regroupe là.
Eux aussi.
Tu veux dire que.
On espère que ta jumelle sortira
la
jamais.
La maman a accouché donc au bout de 6 mois et de 9.
Voilà.
Ouais, ça, on peut dire ça comme ça.
Oh, c'est un truc de dingue.
Amy a vu le jour le 1er juin 2012, tandis que Katie n'est arrivée que le 27 août, 87 jours plus tard. Leur maman, Marianne, en était qu'à sa 23e semaine de grossesse quand elle a commencé à ressentir les premières contractions. Alors elle est allée aux urgences. Là, elle a accouché donc prématurément d'Amy, très fragile. La petite Amy a tout de suite été placée sous incubateur. Voilà. Et puis, elle a été si fatiguée après avoir accouché de la première qu'elle a dû se concentrer et elle a donné naissance à la deuxième que 3 mois plus tard. Voilà.
Il y en a une qui est née à Belfast et l'autre à Dublin. T'imagines la déception du père. La première est sortie, il dit, je peux y retourner. Non, c'est encore occupé. Il va falloir attendre 3 mois.
Il doit y avoir une embrouille entre les deux filles. Il y en a une qui a chassé l'autre à coup de pied qui lui dit dégage. Il y a un truc comme ça.
C'est incroyable.
Elle était de l'Ira, là, celle qui restait.
Il y en a une qui est protestante et l'autre catholique.
Non, mais est-ce que ce sont vraiment des jumelles dans ces cas-là?
Mais
oui, c'est des jumelles.
Et oui, ça veut dire qu'ils sont nés du même coup, quoi.
Les deux par voie.
Peut-être pas des vraies jumelles.
Enfin, on ne sait pas. C'est ni des sœurs ni des jumelles.
Ah bah si, c'est des
parce
sœurs.
Parce que
t'as
quand même jamais 3 mois de différence avec ta sœur.
Mais si, mais c'est des jumelles.
Mais non, parce qu'il
c'est
faut 9 mois pour
c'est
une
quand même
gestation.
Des jumelles.
Ouais,
bon,
général, avec ta sœur, t'es pas dans le même ventre, tu vois. T'es pas
oui,
en même
mais enfin, c'est des jumelles qui n'ont pas la même date de naissance.
C'est exactement ça, voilà.
C'est un truc très très bizarre.
Bah oui, c'est pour ça qu'on en parle.
Ah ouais, elle a tout compris, hein. Elle est formidable. Rodolfo Isutupica, vous vous souvenez de ça évidemment, la collegiala.
Ah oui,
sur Europe 1.
Collegiala, collegiala.
Ah ouais, ça date de 88 déjà.
Europe 1, une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus.
Bonjour Paul.
Salut, rebonjour à tous.
Alors, réforme des régions, on veut les nouveaux noms. Comment vont s'appeler ? Tiens, allez, prenons un exemple. La région Champagne-Ardennes qui doit être fusionnée avec la région Picardie. Comment ça va s'appeler ?
C'est une affaire très très compliquée.
si vous voulez, vous allez suivre mon ordre. Hein. Ce sera beaucoup plus simple.
En gros, c'est, vous suivez ce que je sais pas ou on parle pas.
Ah, non, mais attendez, non. attendez, Paul. Oui. Vous l'avez forcément quelque part, cette région.
Oui, mais je vais pas passer des heures et des heures à fouiller dans mes archives. Hein.
Non, mais c'est pas des archives, c'est nouveau. Parce que si c'est pour me dire que la Haute-Normandie et la Basse-Normandie, quand elles vont être réunies, vont s'appeler la Normandie, c'est pas ça que j'attends, Paul, vous voyez ?
Je n'en doute pas, hein. Mais c'est marrant parce que vous tombez juste sur celle que je n'ai pas. C'est quand même extraordinaire. Hein. Ça bon. Je l'ai. Picardie et Champagne-Ardenne.
Alors.
Il y a deux solutions. De toute façon, ce n'est pas décidé. Hein. Soit ça va s'appeler, comme il y a la région PACA, ça s'appellera la région, la CAP. C'est-à-dire CAP comme Champagne, A comme Ardenne et P comme Picardie. Sinon, vous avez la Picardenne. Voilà.
Oh là là. La Picardenne.
Picardenne.
Ah, quitte à être ridicule jusqu'au bout. La Picardenne. Les Picardennois et les Picardenniers. Oh là là, ça va être chouette,
alors,
ça, quand même.
Alors, vous avez la région Bourgogne-Franche-Comté.
Oui, oui.
Alors, il y a trois choix. Vous savez qu'ils sont en train de plancher là-dessus.
Eh oui. Entre alors, Dijon et Besançon.
Alors, il y a la France-Bourgogne. La Grande Bourgogne ou bien la Burgondie.
C'est ridicule.
Non mais la Burgondie, oui, arrête tes conneries, c'est Astérix.
Je suis fier d'être et... Burgondais.
C'est Astérix.
Alors attendez maintenant, l'Auvergne et Rhône-Alpes.
Alors là aussi, il y a plusieurs possibilités. Vous avez une solution extrêmement simple qui est Alpes-Auvergne, tout simplement. Vous avez le Grand Rhône, vous avez le Dauphiné et la Rhodanie.
Ah, c'est pas mal. Le Grand Rhône, c'est pas mal.
Le Grand Rhône, j'aime bien.
Le Grand Rhône, c'est pas mal. Alors passons maintenant au centre, Limousin et Poitou-Charentes.
Eux, c'est les invendus.
Alors Poitou-Charentes, centre et Limousin, ça peut devenir l'historique. Poitou, la région de Poitou ayant eu une importance capitale dans l'histoire de France, mais à mon avis, elle sera dénommée tout simplement Centre. À un moment, ils avaient pensé à quelque chose d'un peu romanesque qui était cœur de France. Mais Poitou, Charente-Centre va s'appeler Centre.
Alors, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
Alors, vous avez deux possibilités.
C'est pas fait tout ça non plus, parce que Midi-Pyrénées, parfois, ils avaient envie d'aller du côté de Bordeaux. Hein.
Ouais. Ça peut s'appeler Sud-Pyrénées. Midi-Roussillon, Midi-Doc, Occitanie ou Comté de Toulouse.
Oh, le Comté de Toulouse.
Ça va s'appeler Midi-Roussillon. Notez-le, Laurent, vous pourrez m'en reparler en temps et en heure. Midi-Roussillon.
Bon, l'Alsace-Lorraine, ce sera l'Alsace-Lorraine, évidemment.
Oui, l'assemblage est naturel.
Voilà, Normandie, changer, c'est normal. Hein. Bretagne, ça ne change pas. Pays de la Loire, non plus. Aquitaine, ça ne bouge pas.
Voilà, donc la Corse, ça ne bouge pas. L'Île-de-France, ça ne bouge pas. Là, vous avez en exclusivité avant toutes les radios, tous les journaux et toutes les télévisions, le nom des futurs...
C'est du bon travail. Alors maintenant, le label fait maison. Quel va être ce visuel qu'on verra sur les cartes des restaurants à partir du 14 juillet ?
Alors, donc, déjà, il y a eu un petit sondage. Hein. 96% des consommateurs, selon OpinionWay, sont pour ce logo fait maison. Hein. Et 9 restaurateurs sur 10, pour votre information... utilise des produits préparés. Donc, vous voyez, ça va pas bien. Hein.
Enfin, il y a des trucs qui sont pas mauvais.
Alors,
hein.
Ce logo va inciter à aller davantage.
C'est pas le problème.
Mais attention, Paul, ne dites pas ce qui ne serait pas vrai. Ça veut pas dire qu'ils vont pas utiliser des produits surgelés comme on l'a rappelé tout à l'heure. Ça veut dire simplement que le plat ne sera pas fait à l'avance. C'est la transformation qui sera faite maison. Mais ils auront le droit d'utiliser des produits
c'est
surgelés.
Excellent, le surgelé, de toute façon. C'est pas...
Absolument. Oui. Je vous l'accorde. Vous avez bien travaillé votre sujet. C'est bien.
Ben oui.
Bon, alors, il y a plusieurs, vous savez qu'il y a plusieurs agences qui travaillent sur ce logo, qui ont été mises en concurrence. Hein. Alors, parmi ces différentes agences et parmi ces différents logos, vous avez un dessin humoristique assez démodé, mais c'est pas mal vintage, un cuisinier joufflu. Et il y a une bulle, comme dans les BD, et il dit miam miam.
Ah oui.
Alors, on va bien se marrer alors.
Ça, alors autant écrire fait maison directement.
C'est miam miam, miam miam, c'est vrai que miam miam, ça fait maison.
on dirait un nom de région.
Ouais.
Une boîte de conserve et des plats tout préparés, et rayés d'une grande croix.
Ah. Ah. Ah oui, ça c'est
alors,
pas mal.
Vous avez un autre dessin un peu démodé, c'est un chef joufflu qui se lèche les babines et qui se tape sur le ventre.
Ah ouais, t'es dans un restaurant étoilé et donc...
Vous avez une grosse bouche, on voit qu'une bouche qui avale une...
Pas tellement, non. T'as pas tellement une grosse bouche, non. T'as une jolie bouche, oui.
Taisez-vous, c'est pas la peine de m'interrompre pour si banal. Hein. Alors vous avez...
C'est peut-être banal, mais c'est fait maison chez nous aussi. Hein.
Oui, bien sûr, c'est fait maison.
Une toque de chef.
Qu'est-ce que vous dites?
Une toque de chef, ça suffit.
Attendez, une toque, oui, ça, non, une toque de chef, c'est pas possible parce qu'il y a un certain nombre de guides qui utilisent déjà la toque.
Mmh. Ah, oui. Une maison, voyez, une maison, une maison, mais ça fait un peu bâtiment.
Vous avez des mains qui travaillent avec une cuillère dans une casserole.
Ah oui.
C'est bien. Vous avez un maître queue, enfin un maître queue avec un X. Hein.
Bien non, sûr, oui. Bien, sûr. Hein. Quel bel effet.
Sourire, c'est pas une queue d'un maître, non.
Ouais. Tout sourire avec des yeux en bille de loto qui est devant ses fourneaux. Mais en vérité, après vous avoir donné tous ces projets qui sont de véritables projets...
Vous pouvez nous dire celui qui sera retenu.
Oui, selon Perico Légas, ce chroniqueur gastronomique à Marianne, et qui planche justement sur ce travail, ça devrait être une poêle fumante.
Une poêle fumante.
Voilà.
C'est ça qui voudra dire...
Moi, je mettrai une vieille dame qui montre ses mains, simplement.
Avec ses taches de vieillesse et ses...
Oh, mais non, mais ce que t'es bête, c'est un petit logo. Une vieille dame qui montre ses mains, qui dit, voilà, ici, c'est une mémé qui vous fait à manger.
Bah, Tipiak aussi. Pour
moi, je mettrais FM, fait maison, et puis voilà.
Fait maison.
Ça fait un peu radio. Mais
moi, de toute façon, écoutez, quand un restaurant, c'est fait maison, j'y vais pas.
Mais oui.
Parce que les restaurants, c'est pourri, en général. Je préfère qu'au moins, quand ils amènent des trucs sous vide, tu le bouffes, tu sais que c'est fait dans des usines.
Bah, parce que ça sert à quoi d'aller au restaurant si c'est comme bien si sûr. C'était à la maison.
Mais la plupart des restaurants...
Moi, les restaurants, on me dit comme à la maison, mais oh, putain.
Moi, l'entrée de chez moi, j'ai mis fait restaurant. Hein.
Paul, la troisième enquête concernait Madame Valérie Fourneyron, qui aurait dû envoyer 3 lettres pour qu'enfin on lui réponde et qu'on accepte sa démission.
Ouais, alors j'ai une toute petite introduction. Il faut savoir que Valérie Fourneyron, elle n'a pas la grande forme. Ah. Rappelons qu'en avril, elle est hospitalisée au Val-de-Grâce à cause d'un syndrome ménager.
Ménager,
oui, d'accord.
Oh oui, c'est pareil.
Syndrome ménager,
fait maison.
C'est bloquer le dos en passant aspirateur.
Un syndrome ménager.
Ah, et vous risquez pas d'en avoir un, vous, hein.
Non, il a couronné sa carrière, là. Syndrome ménager.
Vous êtes chef d'équipe.
Oui.
Alors demandez-la de la boucler un peu, sinon comment voulez-vous que je mène une enquête délicate, difficile et qui va aboutir, en fait.
Paul, je veux bien vous défendre, mais il y a des fois, franchement...
Oui, je sais, mais enfin, un ami est un ami.
C'est vrai, mais enfin, ménager quand même, Paul.
Non, mais vous êtes un bon avocat, trouvez des arguments pour me défendre. Hein.
Ouais, il a juste buté, c'était une coquille, ouais,
bien sûr.
Il s'est mal relu.
Puis en plus, il est vieux, il faut le ménager.
Le mec qui a fait l'enquête à sa place n'articule pas très bien au téléphone.
Alors allons-y, Paulo.
Donc ça a nécessité ensuite, après l'hospitalisation, 3 semaines de convalescence. Elle continue à ce jour à suivre un traitement contraignant. Une nouvelle hospitalisation le 15 mai.
Bon, tout ça, c'était pas la question.
Alors, elle envoie une lettre de démission le 16 mai à François Hollande.
Donc le 16 mai, c'est déjà plus de 15 jours.
Pas de réponse à la lettre du 16 mai. Le cabinet de Valérie...
Le cabinet. Le cabinet.
Le 21 mai, nouvelle lettre de démission. Alors, comme dirait le proverbe, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Hein.
Ah ouais, c'est drôle,
pas de réponse.
Ça.
Pas de réponse. Le 28 mai, non seulement elle envoie une troisième lettre, mais elle donne un coup de téléphone au secrétariat général de l'Élysée.
Bah, c'est surtout ça, pourquoi elle ne l'a pas fait avant? Allô François, je suis un peu flagada, envisage...
Quand on est secrétaire d'État, on ne dérange pas le président pour cela. Hein. Non,
mais pourquoi on ne lui a pas répondu, surtout?
Parce qu'ils n'ont pas dû ouvrir le courrier.
Alors,
c'est comme selon le courrier que tu reçois, tu n'ouvres pas.
Mais non, mais
alors attendez, c'est en début de semaine, c'est-à-dire le 3 juin, que François Hollande a accepté sa démission. Alors vous posez la question... Soit il y a un flottement au service courrier et au secrétariat particulier du président de la République, soit le président voulait prendre son temps, voilà,
bien sûr, bien
et trouver
sûr.
Un successeur.
Bien
alors,
sûr.
Bon, elle a fini par avoir le président au téléphone il y a 48 heures. En fait, même et sa démission est arrivée hier, jour de publication, le jour où vous avez pu parcourir le canard enchaîné, puisque les journalistes se reçoivent la veille.
Alors c'est un hasard ou pas?
À mon avis, c'est pas un hasard, parce que le président, je vais vous dire un truc, hein, en ce moment, de toute façon, le service communication de l'Élysée, ça part à volo. Hein.
Mais non, c'est pas. Moi, je suis, si vous permettez.
Oui, Pierre.
J'ai l'interprétation. Il est évident qu'un ministre, même secrétaire d'État, qui veut démissionner, son directeur de cabinet parle au directeur de cabinet du Premier ministre et ça vient tout de suite au président de la République.
Alors
c'est lui qui a préféré attendre 3 semaines parce qu'il avait d'autres projets, qui disait ça collera bien pour un remaniement. C'est pas que pendant 3 semaines, on lui écrivait des lettres et il savait pas qu'elle était malade. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le service ne fonctionne pas.
Ah, moi, je vous lis ce qui est écrit dans le canard enchaîné.
Mais moi, le canard enchaîné, c'est des gens très bien.
Bon. Bah, Paul, vous n'avez pas fait un mauvais travail quand même, malgré les ménagers et les ménagers.
Oui, vous n'avez pas m'en vouloir.
Non, vous avez pensé à me renvoyer vos lettres de démission, Paul?
Non, mais je vais le faire dans les plus brefs délais.
Merci. Hein. Dans un instant, l'invité d'honneur, ce sera après les infos de 18h.
Europe 1, on va se gêner.
Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur?
Ils vont être 6 à vous poser des questions, questions auxquelles vous devrez répondre uniquement par oui ou par non. Vous connaissez peut-être déjà le principe de la loge d'honneur. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes dans cette loge?
Oui.
Non, vous êtes déjà venu. Bon, alors très bien, vous connaissez donc le fonctionnement, c'est parti.
Vous êtes une fille?
Non.
Vous êtes un mec?
Non.
Poutine fait 2h30 de sport par jour et vous faites plus ou moins?
Moins.
Moins. Vous allez souvent au cinéma?
Non.
Vous êtes parisien?
Non.
Est-ce que vous collectionnez quelque chose?
Oui. Vous collectionnez quelque chose, des objets encombrants? Non.
Non. Est-ce que c'est une collection que n'importe qui peut faire?
Oui.
Vous avez des enfants?
Oui.
Ah, ça y est, je vois.
Combien d'enfants?
Deux enfants.
Ils sont célèbres?
Non.
Est-ce que vous avez des gens célèbres dans votre famille?
Oh là là, il est déchaîné aujourd'hui, hein?
Ouais.
Non. Comme vous êtes très 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 bref dans vos réponses, est-ce que ça pourrait supposer que votre voix est très très reconnaissable?
Non.
Non. Comme vous êtes très bref, est-ce que vous êtes grand ou petit de taille?
Non, c'est juste que la voix est bien déformée.
Vous êtes grande, vous êtes grand?
Et qu'on a dit à notre invité oui et non.
Est-ce que vous lisez le solfège?
Non.
Est-ce que vous vivez de votre corps?
Et de votre cerveau un peu quand même aussi?
Oui.
Est-ce que vous lisez beaucoup?
Oui.
La presse tous les matins?
Oui.
Est-ce que vous êtes marrant?
Oui.
Est-ce que vous avez déjà sauté en parachute?
Oh non.
Ah non.
Et plongé sous-marine.
Est-ce que vous avez déjà sauté Christine Bravo?
Oh non.
Oh non, je préfère le parachute.
Mais et même sans parachute.
Laissez notre pauvre Christine toute tranquille parce que pour elle c'est lundi déjà. Alors franchement.
Un parachute, c'est une
contre-pétrie.
Oui, c'est vrai.
Eh oui, c'est vrai.
De quoi ?
Voici un premier indice musical. Un extrait d'une opérette d'Offenbach qui ouais, peut-être c'est... va vous aider.
Vous avez eu votre bac? Ouais.
Est-ce que vous dansez?
Vous êtes un grand amateur d'opérette?
Oui, plutôt.
Vous avez dit que vous vivez de votre corps, ça fait partie de votre métier.
Oui.
Vous montez sur scène?
Oui.
Vous avez des chaussons?
J'ai des chaussons?
Oui.
Sur scène, hein, pas dans la vie, on s'en
oh,
fout.
Oh, si, dans la vie, moi c'est dans la vie plutôt que ça m'intéresse.
Est-ce que vous mettez des chaussons avec des têtes d'animaux, là, vous savez, les chaussons avec la fourrure?
Non, Stevie n'est pas dans la loge d'honneur. Et ce n'est pas non plus Bertrand Renard. Pourquoi vous proposez Bertrand Renard?
Je crois qu'il monte du Offenbach, et puis comme il était venu...
Ah, c'est pas bête. Effectivement, c'est vrai qu'il a joué dans du Offenbach, Bertrand Renard. Mais non, je vous donne un deuxième indice.
Ta mère dit non, ton père dit non, ton frère dit non. Il peut bien me dire non, mais toi dis-moi oui. Dis-moi oui,
oui, oui,
oh dis-moi oui, oui, oui. Dis-moi oui. Oui, oui. Mon cœur se noie, il ne peut vivre.
Réfléchissez bien
toi.
Sur Johnny Hallyday, on revient dans un instant. Après la pub, il faudra poser de meilleures questions, les amis.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir. Qui se cache dans la loge d'honneur?
Ta mère dit non, ton père dit non, ton frère dit non. Il peut bien me dire non, mais toi dis-moi oui.
Oui, oui,
oh dis-moi oui.
Oui, oui,
oh dis-moi oui.
Oui, oui.
Dis-moi oui.
Ça c'est un bel indice, invité, vous êtes d'accord?
Ah oui.
Est-ce que vous êtes très fort au ni oui ni non?
Non.
Est-ce que vous chantez vous-même des heures de Perrette que vous connaissez par cœur?
Est-ce que vous connaissez Oui Oui?
Non, non.
Mais vous êtes chanteur?
Non.
Oh. Mais ça vous est arrivé de chanter?
Absolument.
Est-ce qu'il vous arrive de jouer seul au théâtre?
Non.
Non, ça vous est pas encore arrivé. Vous jouez
des...
pourrait, hein, mais ça n'est pas arrivé.
Est-ce que vous jouez des classiques?
Oui.
Ça lui est arrivé.
Est-ce que vous étiez à la Comédie Française?
Non.
Non. Voici
c'est
un autre indice.
Guillaume Gallienne.
Indice musical.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom. Au nom de mes ancêtres jamaïcains, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère.
Ce qui est intéressant, c'est qui chante, hein, si vous écoutez la voix. Plus que la chanson, c'est l'interprète qui compte.
Il faudra bien qu'on nous marie.
Est-ce que ça vous aide à vos questions?
Tu peux nous remettre un peu la voix là?
Ah bah on vient de l'entendre pendant 3 minutes.
Mais moi j'ai pas entendu alors.
Franchement.
C'est Bourville en fait.
Mais non, c'est pas Bourville.
C'est pas Bourville.
J'ai rien compris.
Je viens de vous dire que c'était l'interprète
qui
comptait.
Est-ce que c'est Depardieu?
Non, c'est pas Depardieu. Et ce n'est pas non plus Davis Sardou dans la loge d'honneur, comme le proposait Titoff.
La personne qui chante, on connaît que sa voix. Elle est très connue, sa voix. Est-ce qu'on peut entendre un tout petit bout la voix?
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom. Au nom de mes ancêtres jamaïcains.
Vous, évidemment, invité d'honneur, vous l'avez reconnu qui chante. Eh oui, tout de suite même. Ça peut vous aider. Je suis pas certain non plus que ça puisse vous aider une fois que vous aurez l'interprète. Attention, ça n'est qu'un indice.
C'est Bernard Menez.
Non, ce n'est pas Bernard
Menez. C'est Carl Zéro qui chante.
C'est Carl Zéro qui chante. Bravo.
Ah,
alors là, la vache, Florian Gazan, vous êtes costaud.
Ça, c'est
bravo.
Très bon.
Bravo.
C'est Carl Zéro.
Bon, il a travaillé avec lui, hein.
Mais
je n'imite pas mes exploits.
Mais
merde.
Ce n'est pas pour autant Carl Zéro dans la loge.
Ben non.
Voici un autre indice. Ah, si vous connaissez le nom de cette marche, une musique militaire, ça peut vous aider.
C'est la marche suisse?
C'est pas la marche suisse.
La marche belge?
Non plus.
C'est la marche des Goumiers?
Non plus.
Okay. Est-ce qu'on vous a vu? Est-ce que vous avez fait de la télévision?
Dans des séries? Des séries télé?
Aussi, oui.
Et de la radio?
Les deux.
Est-ce que vous avez fait des séries policières, type TF1?
Oui.
Aussi.
Est-ce qu'on vous voit dans des publicités également?
Ah, merde. Est-ce que jouer dans Julie Lescaut, c'était un rêve de gosse pour vous? C'est fait par hasard?
Ça ne s'est pas fait, mais c'est un rêve qui ne se fera plus, malheureusement.
Pourquoi?
Bah parce que c'est fini, Julie Lescaut.
Vous avez été héros récurrent?
Non, oui.
Mais pas vraiment récurrent, mais un peu.
Oui.
Puisque vous avez parlé d'une série et que vous aimez les génériques télé, Florian Gazan, pour vous aider, en voilà un générique. Et non, notre invité n'est pas Laurent Deutsch, et ce n'est pas non plus Frédéric Diefenthal. Écoutez bien ce générique, il revient de toute façon après la pub.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Alors, voilà un générique télé qui
Alors,
va peut-être aider.
Est-ce que vous avez joué dans des programmes courts?
Oh, j'imagine aussi, non?
Très peu.
Très peu.
Bon, pas genre Mon Cher Voisin, tout ça.
Oh non.
Bruno Salomon est proposé par Yann Moix, mais non, notre invité n'est pas Bruno Salomon.
Est-ce que vous êtes connu internationalement?
En Belgique et en Suisse.
En Belgique et en Suisse.
En Andorre.
Vous êtes d'origine française ou...
Vous êtes de la police?
Notre invité est drôle, voyez-vous.
Vous êtes blanc?
Non, mais on attend.
Blanc.
Vous êtes français? Vous êtes belge?
Non. Vous avez les yeux bleus?
Non plus.
Marron?
Pas vraiment.
Tu vois une autre couleur?
Putain, rouge?
Non.
Est-ce qu'on vous assimile?
Qu'est-ce qui reste?
Est-ce qu'on vous assimile à un film en particulier, par exemple?
Non.
À une pièce de théâtre?
Pas particulièrement une plus qu'une autre. Voici un autre indice.
D'accord.
J'ai connu des tas de filles, des tas de garçons aussi. Mais quand j'ai connu Camille, ah, quel trouble dans ma vie. Camille n'est pas très fille, n'est pas très garçon non plus. Comment expliquer Camille à ceux qui l'ont jamais vue? Camille est assez spéciale, il ou elle, je ne sais plus, ressemble à une amygdale aux extrémités fourchues. Certains trouveraient atroce son corps car un peu partout où devrait y avoir des bosses chez Camille, il y a des trous.
Vous avez reconnu évidemment
Jean-Yann, oui, bah alors.
Alors c'est quelqu'un qui s'appelle Yann quelque chose?
Non, pas du tout.
Non, c'est lié à Camille, la chanteuse peut-être?
Non plus.
Merde.
Non, Yann Moix, on a déjà dit que ça n'était pas Guillaume Gallienne.
On l'a dit aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui. Oui, ah bah oui. Si ça avait été hier, je ne vous le préciserais pas. Quand même, oui, je tiens à l'émission. Oui.
Est-ce que l'indice Camille, vous parle ?
Ok, oui.
Ah oui, oui. Non seulement la chanson, mais l'interprète, évidemment.
C'est très dur.
Alors, Jean-Yann, Carl Zéro.
Est-ce que vous avez travaillé avec Jean-Yann ?
Non. Mais.
Vous êtes son fils ?
Ah, non. Non, mais vous l'avez rencontré, son fils.
Oui.
Est-ce que vous êtes un fils d'eux, justement ?
Pas du tout.
Voici un autre indice.
On va se gêner sur Europe 1.
16h, 18h30. Laurent Ruquier.
Ce n'est pas le générique de l'émission. Enfin, si, c'est le générique de l'émission. Mais c'est un indice.
Que c'est quelqu'un qui est venu dans notre émission, donc.
Bah, faut poser des questions, Pierre.
Eh ben, je sais. C'est le nouveau. Est-ce que vous êtes nouveau?
Est-ce
que vous êtes nouveau dans cette émission?
Ça fait combien de temps?
Est-ce que vous êtes produit par Laurent Ruquier?
Non.
Est-ce que vous avez des lunettes et que vous êtes né au Havre?
Non.
Bon, alors, attendez. Vous avez déjà bossé dans cette émission?
Depuis combien de temps?
Un an ?
Depuis un an.
Ah bah dis donc, on vous a pas repéré. Vous avez pas marqué.
Un an ?
Est-ce que vous faites très bien les accents ?
Ah, c'est lui ?
Ah, oh, putain.
Fabrice Eboué propose Christophe de Chavannes.
Mais non, ça y est, je l'ai.
Ah bah évidemment, là maintenant, si vous l'avez pas, c'est quand même malheureux. Alors.
On l'a tous.
Alors allez-y, montrez-moi vos papiers que je vérifie les bons camarades dans cette équipe. J'en tiens un, c'est Titoff.
Mais oui, on l'a.
Ah oui, mais non, on l'a. Mais je veux le nom, moi, alors, Christine Bravo. On va voir si vous retenez les noms des gens qui travaillent avec vous.
Moi, je l'ai pas croisé.
Je l'adore, attends.
On va voir la honte. Oui. Pierre Bénichoux, vous avez le nom, j'imagine.
Je l'ai.
Ah non, mais j'ai honte pour vous.
Mais je vois sa tête, attends.
Ah bah heureusement que vous voyez sa tête.
Non mais honte.
Il est là au moins une fois par semaine. Oh, merci Titoff, hein, quand même.
Oui, c'est notre ami qui fait tous les accents.
Ben oui, mais c'est quoi son nom?
Il est au théâtre en ce moment.
Mais oui, on l'adore.
Tu vois pas qu'on a un trou?
Ah bravo Fabrice et vous. Ils sont deux autour de la table. Ouais, on peut compter sur ses amis dans ces cas-là. Alors attendez, Titoff et Fabrice Eboué, vous ne dites rien. Vous laissez Yann Moix, Christine Bravo, Pierre Bénichoux et Florian Gazan annoncer l'arrivée dans notre studio de...
Notre ami qui fait les accents.
Mais j'ai honte, hein.
Mais on connaît que lui.
Fabrice Eboué, Titoff, notre invité d'honneur, c'est...
Logérias.
Éric Logérias, évidemment. Éric Logérias est notre invité d'honneur, tout simplement parce qu'il est à l'affiche du Petit Montparnasse, à partir de vendredi prochain. C'est facile à retenir, c'est le jour du débarquement. On n'arrête pas la connerie, et c'est évidemment un titre qui avait servi de recueil de textes pour Jean-Yann, puisque le Cherche-Midi, je crois d'ailleurs à l'époque, avait fait deux volumes des meilleurs textes de Jean-Yann, que vous reprenez sur scène, à trois.
Avec Jean-François Vinciguerra, qui est chanteur et comédien, que j'ai rencontré d'ailleurs en chantant des opérettes et du Offenbach chez Savary il y a quelques années, et un pianiste qui s'appelle Johan Fargeau, qui a fait des arrangements originaux de nombreuses chansons de Jean-Yann, parce qu'on le sait trop peu, mais Jean-Yann a écrit beaucoup, beaucoup de chansons.
Alors par exemple la chanson Camille, évidemment.
J'ai connu des tas de filles, des tas de garçons aussi, mais quand j'ai connu Camille, ah quel trouble dans ma vie. Camille n'est pas très fille, n'est pas très garçon non plus, comment t'expliquer Camille à ceux qui l'ont jamais vu.
Vous la chantez celle-ci sur scène?
Non, c'est pas moi qui la chante, c'est Jean-François Vinciguerra.
Ah non, enfin, je veux dire, elle est interprétée.
Elle est chantée, oui.
Le
oui.
Vous n'était pas que pour vous.
C'était un vous de général et de majesté.
Voilà. Oui, et vous rechantez La Gamberge, oui.
Oui. Oui.
C'est très belle chanson. Plus belle chanson du monde, hein. Formidable.
T'as essayé la rééducation pour ton cheveu?
Non. Si on m'enlevait mon cheveu, c'est comme si on t'enlève tes trous de mémoire. Enfin, tu vois, je n'existe plus.
Mais j'aime bien, moi, mais sympa, parce que Laurent, il s'est rééduqué, tu vois.
Ça a marché sur un.
Ben oui.
Laquelle de Jean-Yann vous chantez-vous?
Moi,
vous sur
chante,
scène, vous, Éric Logérias.
Par exemple, La Gamberge.
Alors, allez-y, juste pour nous.
Je chante. Alors, ça fait.
On vous a dit, allez-y, juste pour nous.
Juste pour nous.
Ça, t'as trois jours pour répéter.
Je rêvais d'être un héros et voulais m'en aller faire le mirliflore, connaître la faune et la flore, faire une arche de mon bateau. Je rêvais d'être un conquérant et je voulais partir tout comme Don Quichotte, tant sur mer que sur la flotte, par les terres et les océans. Quand je voyais une guenille, j'en voulais faire un étendard. Je l'ai compris beaucoup trop tard. J'aimais trop tout ce qui brille. Voilà.
C'est une chanson triste.
C'est une des plus jolies de Jean-Yann.
La Gamberge.
C'est une des plus jolies chansons de Jean-Yann.
C'est une des plus jolies chansons de Jean-Yann, chantée par Philippe Clay. C'est Philippe Clay qui l'a fait connaître. Mais il était un,
bah, vous l'avez. Et l'Ave Maria, vous l'avez aussi, l'Ave Maria.
Nous chantons l'Ave Maria. Nous chantons, bah, non, c'est un Ave. Attends, ne chantons pas cet Ave Maria là. Nous en chantons un autre. Chantons l'Alléluia garantie. C'est, mon doux Jésus. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi marcher sur l'eau. Sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ, ah, c'est comique, inventez le ski nautique. Alléluia, 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 alléluia.
Jean-Yann de retour sur scène au Petit Montparnasse grâce à Eric Logérias, Joanne Fargeau et Jean-François Vinciguerra. J'espère que je prononce bien,
fort bien
les noms de vos camarades. Mais il y aura en alternance d'autres comédiens, je crois.
Oui, Frédéric Lombois, Isabelle Fleur.
Pendant tout l'été, vous allez y être ?
Tout l'été. Et plus si affinité, puisque nous continuerons les samedis et les dimanches à la rentrée.
C'est une bonne idée de prendre les textes de Jean-Yann sur scène.
Jean-Yann est un des génies du XXe siècle. Ouais.
Il y a des fausses pubs,
Il y a des fausses pubs, il y a même des personnalités rares et distinguées qui nous ont prêté leur voix pour certaines fausses pubs.
Et est-ce qu'il y a des textes plus longs, des sketchs? Oui. Par exemple, le permis de conduire, vous le jouez ou pas?
Nous jouons le permis de conduire, bien sûr, c'était impossible.
Et les routiers?
Nous jouons les routiers mélomanes. Et puis il y a des textes moins connus de gens, des sketchs. Par exemple, il y a un sketch s'appelle Le Porte-Savon. C'est un sketch qu'il avait écrit pour une émission de télé, mais il a été beaucoup, beaucoup viré de la télévision avant même parfois de pouvoir faire les émissions. Donc il avait sorti un bouquin qui s'appelait Sketch injouable ou à jouer. Et parmi ces sketchs injouables, il y a Le Porte-Savon qui raconte l'histoire d'un monsieur placé comme porte-savon chez les gens pour résorber le chômage.
On n'arrête pas la connerie, les textes de Jean-Yann au Petit Montparnasse, c'est à partir du 6 juin. Mais j'explique très vite les indices. Alors, la belle Hélène, parce que vous avez joué le rôle de Ménélas.
J'ai chanté Ménélas.
Voilà. Carl Zéro, parce que vous avez évidemment créé avec Carl Zéro le Zérorama et le vrai journal de Carl Zéro.
10 ans de collaboration.
La marche militaire, c'était la marche des mousquetaires.
Et alors
il fait la pub pour Intermarché.
Tous unis contre la vie chère.
Je t'entends plus
dans
les dernières.
Ah mais tu vois quand je t'ai parlé de ta voix.
Oui.
Refais-le là.
Tous unis contre la vie chère.
Oui, oui.
Ouais, 1000
euros.
Ça.
Il vient de gagner 20 000 euros là.
Je suis obligé de citer aussi Auchan, Carrefour et
30 000 euros.
Blague à part, c'est la série de Canal+.
C'était ça.
Oui. Mathis Tador. Et M était vraiment totalement inconnu à ce moment-là. Il n'avait pas encore sorti cet album, puisque c'est sur l'écoute des maquettes de cet album qu'a été choisi le générique.
Mathieu Chédid avait fait le générique de Blague à part.
J'ai pas fait tant de trucs, moi.
Bah, il a fait Ardimat aussi avec Thierry Ardisson.
Et... Rappelle-moi ton nom.
Jean-Maurice Vadechias.
Éric Logérias est sur scène. Et grâce à lui, on va revivre les textes de Jean-Yann. On n'arrête pas la connerie. Et ici, on le prouve d'ailleurs régulièrement.
Tous les jours.
À demain, 16h. Merci, Éric Logérias.
Merci à vous.